Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Oh, attention à ce ballon qui traîne. Oh, c'est but.
Le cinquième but est le plus beau. JJ Okocha s'amuse avec la défense belge et décoche une frappe dont il a le secret.
Oh là là, et le deuxième but. Oh, c'est incroyable, c'est Yonko. Hop là, boum, et ça va dans la lucarne.
Le PSG avait une défense. Devant 30 000 personnes ravies, les hommes de Luis Fernandez ont trouvé une attaque.
T'as pas d'avis, autrement dit, t'as le cul entre deux chaises. Je te déconseille vivement de composer le numéro 32-16. Tu risques de passer pour un con ou pour un rigolo. Ouais. C'est dur d'en placer une quand notre Daniel nous fait du rigolo.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct. L'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ce soir, Florent Gautreau est là. Salut Florent.
Salut à tous.
Voici ce que Florent n'a pas été le formateur de Daniel à l'époque hein, pour ses sujets télé. Florent a fait ça par ailleurs, mais apparemment Daniel est passé entre les mailles du filet. Daniel qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Le problème des autodidactes, parfois c'est très très bien et parfois moins.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, ce sont les grandes manœuvres qui vont démarrer à Paris, à Marseille. On va en parler dans quelques instants, en débattre au 32-16. Dans quelques secondes, Daniel veut donner son avis sur le futur proche du PSG. On enchaînera avec d'ailleurs l'annonce de Mbappé hier, il va rester. Et puis un peu plus tard, l'OM. L'OM doit-il vraiment garder Tudor? On en débattra ensemble. Florent, lui, ce sera après 23h, veut donner son avis sur la lutte entre Nantes et Auxerre pour le maintien. Et puis la course à l'Europe, avec cette question de la semaine, qui sera le cocu? Est-ce que ce sera Rennes, Monaco ou Lille? Oui, finalement, il y en a un qui restera sans Coupe d'Europe. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live sur Twitter et puis Direct Studio est là, notre messagerie sur les applis RMC et RMC Sport disponible pour vous, bien sûr. Les gars, on a également des directs ce soir, d'abord du basket avec le match Monaco-Bourg-en-Bresse. Maxime Thillette, c'est la demi-finale, c'est un des matchs de la demi-finale.
Exactement.
Le match 1 de la demi-finale du championnat de France.
Tout à fait. Et la JL Bourg qui a battu deux fois Monaco cette saison, mais la troisième ne devrait pas être ce soir. Monaco qui se balade, plus 23 à 6 minutes de la fin, 83 à 60 ici dans une salle Gaston Médecin qui a accueilli encore une fois Kevin Durant, mais pas de Neymar ce soir.
Merci, à tout à l'heure. Et puis Roland Garros avec Eric. Salut Eric, avant que tu nous parles des matchs, j'ai une question à te poser.
Oui, salut Gilbert.
Salut Eric, explique-moi comment la terre entière veut aller à Roland Garros et n'arrive pas à avoir de place et que le stade est à moitié vide. C'est insupportable.
Le stade est à moitié vide.
Bah, là, on voit la télé, là, et toute la journée, j'ai regardé.
38 000 personnes ont franchi.
On a les images devant les yeux, tu vas pas nous raconter n'importe quoi.
Ah bah, moi, j'ai le Central Studio, c'est plein à craquer. De quel match tu me parles?
Daniel, Florent.
Non, je sais pas, de quel match tu me parles?
Bah là, en direct, là.
En direct? Sur le central? Mais c'est plein à craquer, Gilbert. Ah, c'est central, à part la présidentielle, bien sûr.
Ça, c'est le Simone Mathieu.
Enfin bon, la question s'est posée.
Ah bah, Simone Mathieu, c'est normal qu'il soit vide, il n'y a plus de match, Gilbert. Non, hein, c'est
Caroline Garcia, par exemple, son match n'était pas plein.
Oui, non, bah, les gens n'ont pas l'obligation, les gens veulent se régaler, vont sur les annexes où tu vois les choses.
Nous, je vous voyais Sinner Müller.
Mais non, mais en fait, vous comprenez pas, en fait. Moi, ça fait des années que j'entends ce truc-là. Le seul débat qui tient sur ces histoires de place, c'est où sont situées les loges. Mais pour le reste, bien honnêtement, sûr, ouais, vous racontez n'importe quoi. Un tournoi du Grand Chelem, il y a 14, 15 cours. À Roland, ça doit même aller jusqu'à 17 cours. Les gens se baladent dans les allées. Ce qui compte, en fait, c'est les entrées. Les gens qui vont dans les entrées, mais rien ne t'oblige à avoir.
Ah oui, c'est-à-dire, tu dis, j'ai la place, puis je me donne le. Je veux peut-être pas y aller.
Finalement. Mais non, c'est pas ça. C'est que tu peux aller voir un autre match. C'est comme un spectacle ouvert.
Ouais,
c'est comme une grande galerie. Si t'as pas envie d'aller voir le match qui est sur le central parce qu'il te plaît pas et que t'as envie d'aller sur le 14,
là, voit,
où il y avait l'excellentissime et fantastique, fabuleux Lucas Van Lache contre Cecchinato, tu allais sur le 14
du TCCS, non, c'est ça,
le 14,
Daniel,
les gens étaient même debout dans les allées pour voir ce match, parce qu'il y avait un petit français, exactement comme il y avait beaucoup de monde pour voir Arthur Fils, qui est un autre français.
Ah, je te confirme que le Simone Mathieu était plein, voilà, à craquer.
Mais en fait, ça
tourne. Excusez-moi, le central et Simone Mathieu, je veux que ce soit plein tout le temps.
Ça tourne, mais non, mais ça, mais
pas possible, Gilbert.
Tu peux pas, parce que si tu vends plus de places qu'il ne faut pour le central, tu auras des gens qui auront une place, ils ne pourront pas accéder au central le jour.
Excuse-moi, mais si tu y vas toute la journée, peut-être au bout d'un moment, t'as autre chose à faire. Hein. Peut-être le soir, faut rentrer. C'est pas comme un match de foot, c'est 90 minutes. Là, ne serait-ce qu'un seul match, c'est déjà minimum 2 heures. Et tu as des fois, t'as pas envie de t'en coller 5 de suite. Alors qu'il, d'ailleurs, ils l'ont fait, le fameux système de couper un peu la journée en deux. Où moi, je me souviens l'année dernière, mon fils, Pagel, mon fils, le vrai fils, le mien, il grattait des places pour les gens qui sortaient des loges, ouais, et qui pouvaient donner, ouais, un ticket. Et ils ont autorisé ça, Roland Garros, qui fait que plein de gamins ont pu aller profiter de ça. Le seul débat vraiment qui tient sur ce truc-là, c'est les loges trop basses. Mais ça, ils vont pas déconstruire maintenant, non, ce truc-là.
Bien sûr.
C'est le vrai problème. C'est ceux qui viennent. C'est le vrai truc qui moi m'énerve. C'est ceux qui ont les loges et qui invitent des gens pour faire du business, des gens qui n'en ont rien à cirer du tennis. Ça me gave. Mais le reste, la population tennis, ils se baladent de cours en cours, ils adorent ça. Mais ceux qui viennent bouffer de midi à 15h et qui ne voient même pas une minute de tennis, ça, je supporte pas. Ça, moi, j'ai envie d'aller les chercher dans le resto, là. Bon, et j'ai envie de leur dire, vas-y, refile ta place,
Eric,
parce que tu m'énerves.
Eric, t'as des places.
La question. Bien sûr, oui, j'en ai plein les poches. Plein les poches.
Bon, comme je suis là entre 2-3 jours,
Eric. Les journalistes sont noirs, rarement. Eric Salio doit pas en avoir des masses. Au max, il a une entrée stade pour que tu ailles voir un cours annexe. Au max,
très bien.
Cours
annexe, très bien, je prends.
Non, mais j'en ai plus. Mon fils est venu tout à l'heure. Il a vu Félix Auger-Aliassime.
Gagne mon fils, il vous pique toutes les places. Ah non, c'est votre vrai fils. Et est-ce qu'il a gagné, Arthur Fils, ou pas?
Non, il a perdu.
Ah, donc on a perdu père et fils.
Oh oui, exactement. Oh, c'était préparé ça.
Non, parce que je savais pas s'il est perdu, honnêtement.
Ah, le pire, c'est que c'est pas Eric qui l'ait fait, surtout celle-là. Il avait toute la journée pour y penser.
Non, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que Luca Vandage, le chouchou de Daniel.
Qui ça?
C'est vrai que Luca Vandage, pardon, le chouchou de Daniel, jouera contre
Vandage.
On dit Vandage.
Je sais pas pourquoi depuis aujourd'hui l'entourage a décidé de changer la prononciation, alors qu'au club depuis toujours, Guillaume, vous avez toujours été Vandage.
Bon, je sais pas. Excuse-moi, Daniel, de faire mon travail à l'Australian Open. Ouais. Je vais le voir. Excuse-moi, Luca, on dit comment?
Je connais.
Il me dit Luca Vandage, c'est flamand.
On l'a jamais appelé Vandage.
Je sais qu'on parle italien à la maison chez les Vandage.
Ah non, mais je sais qu'ils parlent italien à la maison. Ils sont italiens d'ailleurs. Le nom qui n'a pas l'air d'être.
D'ailleurs, son plat préféré, c'est les spaghettis carbonara.
Pourquoi?
Parce qu'il y a de la viande hachée dedans.
Il n'y a pas de viande hachée dans les
carbonara. Meilleur,
ah non, merde, c'est planté. C'est
les... planté avec la bolo.
C'est vrai,
t'as foiré.
Zéro. J'ai foiré ma vanne, merde.
Donc, viande hachée, juste.
Merci, Eric Salliot.
Non, mais attends, il y a un match quand même.
Ah bon?
Il y a un match, c'est Yannick Sinner contre Alexandre Muller. Et Yannick Sinner, il est pressé. 6-1, 6-4, 4-0 pour l'Italia.
Ah, mais là, on est sur du très solide.
Ah, bah oui, c'est du haut niveau, là.
Allez,
je ne vais pas vous accompagner longtemps.
Il va essayer de rentrer.
Il va manger.
Il est content. Bon, allez, jingle rigolo, s'il vous plaît.
Au revoir, Galtier, prends la doudoune et barre-toi. Il la kiffe, cette doudoune. Donnez-lui la doudoune, faites-le partir. Tu donneras à la famille, allez, rentre.
Ah, mais oui, mais.
Bah, écoute, c'est un peu une continuité.
Il veut pas la rendre.
Exactement.
Et en fait, il a dit ce week-end qu'il ne voyait pas pourquoi il partirait.
Il avait un t-shirt là parce que c'est l'été.
Samedi soir, nous étions ensemble pour l'after de l'avant-dernière journée de championnat. Évidemment, le PSG a été sacré officiellement, même s'il l'était depuis longtemps. Et puisqu'il ne reste plus que les promesses et les espoirs aux supporters du PSG, eh bien la machine, forcément, depuis samedi soir, elle est en route. Tous les supporters du PSG attendent des news maintenant. On attend l'interview cirage de Nasser Al-Khelaïfi avec les fameux messages comme ceux de l'année dernière, c'est la fin du bling-bling, enfin les promesses et la mise en route de l'espoir. On attend ça. On n'a pas envie que ça continue le cirque parce que là, on a bien compris. L'hôte défend sa place et estime mériter de rester parce qu'il est champion. Il est allé jusqu'à dire, et ça je l'entends souvent, je ne comprends pas cette phrase, c'est jamais banal d'être champion ou c'est jamais normal d'être champion. J'ai envie de lui dire, quand sur les 10 derniers championnats, t'es champion 8 fois, la normalité c'est d'être champion au Paris Saint-Germain. Et l'originalité c'est de ne pas l'être. Donc je veux bien que tu dises que ça peut ne pas être facile, ça d'accord, mais pour ce qui est d'être normal, si, la normalité c'est ce que tu as fait. Donc maintenant, faut remballer le sac. La doudoune, maintenant, c'est plus de saison, mais c'est pas grave, tu la garderas pour l'hiver prochain. Et non, tu ne mérites pas de rester une deuxième saison. C'est déjà une anomalie que tu aies été nommé à ce poste. Maintenant, faut passer à autre chose. On est tous très pressés de savoir quel va être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. On attend l'interview de Nasser Al-Khelaïfi, le choix. On n'a pas envie que ça traîne parce que, pire que tout, ce serait encore une fois qu'on entende des noms, que les rumeurs commencent, la machine à rumeurs, un tel va signer, et que l'entraîneur arrive, au dernier moment avec en gros un effectif quasiment fait. Non, il faudrait que l'entraîneur soit nommé très vite pour que l'entraîneur ait son mot à dire sur la façon dont va jouer l'équipe et qu'on puisse orienter le recrutement pour aller vers lui, en tout cas pour aller vers les choix qu'il aura envie de faire. On a envie de concret maintenant, on veut sortir de cette saison, on veut effacer, on n'a pas envie que à peine le championnat terminé avec un Galtier, je reviens pas sur sa phrase, mais il y en a eu une autre quand même qu'il faut souligner, hein. C'est celle où il essaye encore une fois d'excuser Neymar. Non, il a été très présent, visiblement il n'était même pas au courant, Galtier, que Neymar allait à Monte Carlo pour le Grand Prix. Il lui a encore fait à l'envers, il s'est encore pris une porte dans la tronche, Neymar a encore insulté le club comme d'habitude, en prévenant personne, en faisant ce qu'il a envie de faire. Honnêtement, avec ce dernier épisode là, vous parliez de cocu tout à l'heure, s'il y a encore la moitié d'un supporter du PSG qui soutient Neymar, mais eux c'est même pas cocu qu'ils sont, quoi. C'est au-delà, c'est chef de gare, c'est tout, quoi. C'est pas possible d'accepter ça, d'accepter encore une fois de se faire piétiner comme ça. Donc je reviens à mes espoirs et mes promesses, l'entraîneur très très vite, vraiment très vite, savoir si Campos va rester, les joueurs, le recrutement si possible, pas au dernier moment, il y a qu'on n'attende pas août pour mettre des recrues et qu'on avance, parce que vraiment les supporters du PSG ont besoin maintenant de concret et ont besoin d'effacer cette saison. Alors oui, il va y avoir samedi probablement une fête pour le titre, mais vraiment là maintenant vraiment on a besoin d'annonces et d'annonces fortes et concrètes.
Flo, t'es d'accord, t'es impatient?
Ouais, je suis impatient, mais je pense que tout le dégagement de Daniel sur Galtier au début est un peu inutile parce que on est dans de la posture dictée par les agents et les avocats. Dans sa phrase, je vais rester une deuxième année. Là, on est déjà dans la négo. On est déjà dans le truc d'après.
Tu penses qu'il va partir.
Il faut toujours dire ça. Tu ne lâches pas le poste. Tu dis pas, écoutez, je sais pas de quoi.
Si tu voulais que j'ajoute, il attend le chèque. Oui, t'as raison.
Voilà. Mais c'est important parce que moi, je pense, j'essaie de voir ce qui peut changer positivement, parce qu'on nous dit toujours vous tapez partout tout le temps de la même façon sur le PSG. Oui, c'est vrai, parce que ça ne change pas globalement, mais je vais essayer de trouver des motifs d'espoir pour me dire que certes le discours habituel il va avoir lieu, t'as raison Daniel, de Nasser, mais le contexte change un peu et plutôt pas mal pour le PSG. C'est-à-dire Galtier effectivement doit partir et va partir, et à mon avis le simple fait qu'il soit comme ça aussi affirmatif pour sa saison suivante, c'est que vraiment il est en train de négocier pour dire regardez je fais le job jusqu'au bout puis on va négocier. Messi part, c'est quand même une info importante, parce que c'était pas gagné il y a quelques semaines. Et Mbappé très tôt.
Il passe déjà plus de temps à Barcelone qu'à Paris, celui-là.
Voilà.
Vous avez remarqué.
Et Mbappé très tôt, hier avec cette phrase, cette double phrase.
On va y revenir tout à l'heure là-dessus.
Ouais, il a très tôt clarifié en quelque sorte la situation. C'était pas le cas l'an dernier au fin mai. On est le 29 mai. Donc je dirais, le changement d'entraîneur, ça me paraît inéluctable. Messi qui part, c'est fait. Et Mbappé qui reste, c'est fait. Voilà. C'est différent. Oui, mais c'est différent du contexte déjà de l'an passé. Je parle en timing. Maintenant, il reste une inconnue. Et
déjà,
là,
tu es en avance par rapport à l'an dernier.
En avance, si tu veux travailler correctement, tu pouvais déjà le faire les années précédentes.
Moi, je pense que tu seras en avance quand l'entraîneur sera nommé.
Je suis d'accord.
Pour moi,
je suis d'accord. Mais
l'année dernière,
ce que je veux te dire,
Galtier est arrivé trop tard. Non, il faut que l'entraîneur arrive dès lundi.
Daniel,
lundi prochain, l'entraîneur doit être là pour avoir son mot à dire sur le recrutement.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si on fait le constat pour dire ça ne va pas, tu dis ça ne va pas, mais est-ce qu'il y a pas des raisons conjoncturelles qui font que c'est quand même différent et qu'on peut espérer que le contexte, puisque ce sera pas forcément les idées des dirigeants qui vont être nouvelles, ça va être peut-être les événements qui vont les obliger à changer, c'est-à-dire une saison encore ratée en Coupe d'Europe, c'est clair et net, une saison qui n'est pas satisfaisante en Ligue 1 en termes de spectacle et d'envie, c'est différent de certaines années que les Qataris ont pu connaître, un entraîneur donc qui pour ces raisons-là doit partir, Messi qui part et c'est finalement ça arrange tout le monde. Et il reste finalement une seule inconnue, elle est emmerdante, c'est Neymar. Parce que Neymar, ça va être un problème contractuel. C'est pas simplement parce qu'ils ont envie de le faire partir ou pas envie. C'est
ça,
que
c'est
personne.
C'est un gros
va...
caillou dans la chaussure.
C'est un gros caillou et c'est pour ça que c'est compliqué là, même pour eux. Mais si j'ai envie d'être un peu optimiste en me disant, et si ça pouvait marcher? Tu vois, Mbappé clairement qui est le centre du projet, qui a dit qu'il voulait rester. Même si effectivement, ce côté toujours, je veux marquer l'histoire, le machin, et même s'il a pris soin hier de parler de ses coéquipiers et tout, je le défends tout le temps. Mais il y a un côté aussi très individualiste qu'on a beaucoup reproché à Neymar notamment, et ben on pourrait aussi après un jour ou l'autre faire un débat là-dessus sur Mbappé. Mais enfin bon,
on va le faire tout à l'heure,
ouais,
monsieur.
Ouais, t'as raison. Mais là pour ce qui est du Paris Saint-Germain, j'ai envie de non pas de croire à des sornettes et à des discours d'avant-saison de Nasser Al-Khelaifi. J'ai envie de penser que le contexte va peut-être favoriser l'arrivée d'un nouveau coach, et si possible, on espère un bon, de acter le départ de Messi, acter le fait que Mbappé reste et espérer que contractuellement, un Manchester United ou que le PSG accepte de payer une partie de ses salaires pour que Neymar puisse s'en aller. Donc, je suis moins pessimiste dans le sens où je me dis que assez tôt dans l'intersaison, t'as déjà plein de données différentes de l'intersaison dernière.
Est-ce que ton pessimisme qui n'est pas ultra prononcé, il n'est pas également dû au fait que tu dois penser que le PSG est tombé tellement bas cette année qu'il est obligé de mettre un coup de talon?
Oui, on pour dit remonter. Ça, on le dit quand même tous les ans, mais effectivement, il est tombé encore plus bas.
C'est ça, justement.
Ouais, c'est
donc,
vrai,
on
c'est
a
vrai.
Le sentiment cette année qu'on a quasiment touché le fond. Et que là, à un moment, la prise de conscience,
il faut qu'elle intervienne. Non, je pensais à un moment donné, quand c'était un peu chaud, là, tu sais, avant les matchs qu'ils ont gagnés finalement, peut-être que si tu avais perdu le titre, peut-être que même Nasser partait. Tu vois, peut-être qu'il y a une révolution vraiment.
Oui, mais
là, c'est pas le cas.
Sans cet accident qui n'est pas arrivé, je pense que là, c'est vrai que tu as le sentiment qu'ils ont, tu sais, dans les boulettes que tu peux faire, dans la catastrophe, dans la cassure
dans avec
le public,
sportif,
t'as l'impression vraiment qu'ils sont allés au bout du bout du bout. On pensait, mais tu vois, même au bout de l'histoire de l'année dernière, on continue d'essayer avec les trois stars. On dit à Mbappé qu'il aura le plein pouvoir, mais finalement il l'a pas complètement parce que les trois sont pas partis alors qu'on pensait que Neymar allait partir. Allez. On a encore tenté le coup. Il y a eu la Coupe du Monde au milieu pour bien montrer que les stars n'avaient rien à cirer du club et qu'elles se sont servies pour préparer la Coupe du Monde. Neymar a explosé à peu près, mais tous les critères de respect envers son club. Là, je pense qu'il a tout mis par terre. Donc oui, il y a ce sentiment que t'as touché tellement le fond que paradoxalement, c'est peut-être cette année que je vais avoir un peu plus d'espoir que j'en avais très peu l'année dernière, très très peu l'année dernière, puisque très tôt. J'avais dit cette saison va être catastrophique. Ça, personne pourra me dire le contraire. Mais là, bizarrement,
t'avais cru au projet Campos, enfin au fait de Campos, pas Galtier, mais Campos.
Non,
quand
non,
il est arrivé.
Non, j'ai cru.
On était à Nantes ensemble.
Loin.
On n'était pas d'accord.
Non, mais c'est parce que j'ai cru très longtemps moi que jusqu'au bout, il réussira à convaincre Zidane. C'est ça qui est en
fait. Et le départ de Neymar, il nous l'a confirmé. Campos aussi, qu'il n'avait pas réussi à le faire.
Oui, exactement.
Mais c'est vrai que. Il y a quand même un peu plus d'espoir dans le sens où même Neymar, je prends même le cas où le Neymar reste, puisque à mon avis c'est crédible qu'il reste, eu égard au fait que je vois pas quel club pourrait l'accueillir. À la fois, est-ce qu'ils auraient envie d'accueillir ce joueur encombrant, on va dire, je parle extra-sportif, et est-ce qu'ils auraient les moyens de le faire? Mais même s'il reste, allez, je parie même sur un nouveau coach qui prendrait ce dossier en main et qui ferait de Neymar, ce qu'il est quand même parfois, un joueur de football. C'est-à-dire que quand il est joueur de football, il faut dire aussi que, notamment pour tout ce qui est Ligue 1, et pour l'instant match, on va dire, de poule de Ligue des Champions notamment, Neymar sait faire la différence, peut faire la différence. Il faut pas oublier Mbappé non plus, quand tu regardes les assists, qu'il bénéficiait quand même aussi de Neymar et Messi. Donc tout ça, faudra le repenser. Donc que Messi parte très bien, si Neymar reste, peut-être que dans l'équilibre global, ça va être compliqué et qu'il faut gérer surtout cet extra-sportif. Mais même avec Neymar qui reste, je suis plus optimiste parce que le timing est meilleur et parce que j'espère surtout qu'évidemment, tout va se jouer comme d'habitude sur le coach. Parce que c'est vrai qu'en fonction du coach et du discours qu'on va entendre, c'est marrant, ça fait un peu effet miroir avec l'OM, on a envie d'entendre s'il y a un nouveau coach, quel projet de jeu, quel recrue, quelle gestion du vestiaire, etc. etc. Mais effectivement, je suis entre guillemets moins pessimiste que Daniel et j'espère que le contexte va obliger les dirigeants à acter le départ de Galtier parce que c'est pas officiel aujourd'hui et à faire le bon choix pour le nouveau coach.
C'est terminé au tennis, Eric Saliot.
Ouais. 6-1, 6-4, 6-1, c'est net et sans bavure pour Yannick Sinner qui confirme donc qu'il sera un des hommes à suivre en deuxième semaine. Enfin, au moins, ouais, j'espère qu'il y sera, mais en tout cas, il a un talent fou. Et puis, dans les tribunes, c'est sympa, il y avait des supporters italiens déguisés en carottes, puisque vous savez qu'il a les cheveux un peu roux, Yannick Sinner. Voilà. C'était pour la petite note sympathique, folklorique. Donc, ainsi s'achève ce day 2, messieurs. Je vais vous laisser.
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland Garros.
Voilà, on a pris le tube préféré d'Eric là pour ce petit billboard. Merci Eric, bonne soirée à demain.
Salut, une grande période boîte de nuit. Hein.
Ah bah Eric, bien sûr.
Grande période boîte de nuit. Hein.
Surtout à l'US Open.
Je n'ai pas ton déhanché, Daniel.
Surtout à New York.
Ouais. Dans un instant, Thomas qui veut donner son avis sur la suite au PSG. Et puis ensuite, on parlera de Mbappé, donc il reste un en plus, il l'a dit hier soir.
n'ai jamais dit le contraire.
Oui, mais faut décrypter. Dit que ça resterait. Faut décrypter le message, c'est ça qui est important. Oui, oui. Allez, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h23, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, le PSG au programme. Avant de parler tout à l'heure de l'OM, de la lutte pour l'Europe, de la lutte pour le maintien, évidemment, après l'avant-dernière journée de Ligue 1. Tiens, un petit point sur le programme de la semaine. After de 2h, de 4h demain et jeudi. Et mercredi, on a choisi de faire avec vous, de vivre avec vous en intégralité la finale de l'Europa League. Je trouve c'est une belle affiche entre Séville et la Roma. Mourinho va-t-il encore gagner une Coupe d'Europe avec un style mourinien, enfin bref, il y a pas mal de choses mercredi.
J'aime bien ces finales à la fois avec opposition de style, a priori déséquilibrées comme celle de la Ligue des Champions, enfin déséquilibrées parce que tout le monde voit City. Je rappelle qu'elle me rappelle.
Voilà, sur l'Europa League, difficile, il n'y a pas de gros favoris.
Non, là c'est plutôt l'opposition de style qui est intéressante. Et coup de côté de la Champions League, je rappelle le précédent de 94 qui était pour moi dans les heures qui précédaient qui ressemble à ça, c'est-à-dire le Barça-Milan où tout le monde voyait Barça croquer Milan. Et où Milan a croqué le Barça. Mais peut-être ce ne sera pas le cas.
Oui, sauf que demain, sur cette finale, on voit personne croquer personne.
Non, c'est ce que je dis.
On voit plutôt un match fermé.
Non, mais il y a deux cas de figure, je trouve intéressant.
Les gars, juste avant d'accueillir Thomas, c'est terminé au basket entre Monaco et Bourg-en-Bresse.
Oui, Gilbert et Monaco qui tient son rang pour le moment dans le sprint final de cette saison. Je parle bien sûr de basket. Victoire 96-79. Victoire de 17 points contre Bourg-en-Bresse dans ce match 1. Match 2 prévu mercredi soir, toujours ici à Monaco.
Très bien, merci. Bonne soirée. Quelques réactions sur Direct Studio concernant le futur du Paris Saint-Germain. On attend beaucoup des décisions concernant le futur coach. Bien sûr, tiens, je vous livre, tiens, JB par exemple qui le dit. Au même titre que Galtier est en négociation avec le club sur son futur départ, on ne peut pas tenir un autre discours en public que celui qu'il tient. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est ce que disait Flo tout à l'heure. Quels sont les entraîneurs disponibles et intéressés par le PSG? Je suis curieux d'avoir la liste. Me dit par ailleurs Julien.
Thiago Motta, Mourinho, ça c'est certain, ils sont intéressés. Xabi Alonso, je ne sais pas s'il est intéressé. Je pense que Luis Enrique, qui n'a pas de travail, est forcément intéressé.
De toute façon, on trouve entraîner le PSG, on trouvera toujours des candidats.
Ça fait déjà un début de liste. Non, mais il voulait un début de liste. Je lui donne un début de liste. C'est des noms.
Thomas est là, salut Thomas.
Ouais, salut Gilbert.
Ça va?
Flo et Daniel. Ouais, salut. Ça va. Ouais.
T'attends les grandes manœuvres toi aussi?
Ouais, j'attends des actes, hein, plus que des paroles, forcément, comme tous les supporters du PSG. Maintenant, on va dire qu'on ne croit plus en rien. Et surtout à ce qu'on nous dit, on attend que voilà qu'il y ait des actes et des actes forts, voilà, qui dans tous les partisans. Hein.
Oh là, on entend plus Thomas là. Bon. Non mais Thomas, en fait, ça se découpe en plusieurs parties. Il y a d'abord les ce qu'on va appeler la période des promesses. Après, il va y avoir les actes. Les actes, c'est le nom de l'entraîneur. Puis les joueurs qui vont arriver et qui vont permettre de dessiner une équipe. L'année dernière, l'entraîneur est arrivé. Les joueurs étaient en place et on a pu dessiner une équipe et on a compris très vite que ça jouerait avec les trois devant et que donc ça ne fonctionnerait pas à long terme, mais ça n'a pas empêché dans un premier temps. Et c'est ça, c'est l'étape. Il y a la première étape, c'est la première partie de saison. C'est celle où souvent le PSG est satisfaisant dans le jeu, comme ça l'a été l'année dernière. Et l'étape finale, c'est la deuxième partie de saison quand arrive huitième de finale de Ligue des Champions. C'est en donc combien ça nous fait de phases, ça, les promesses, le nom de l'entraîneur, recrutement, première partie de saison, deuxième partie de saison, voilà. C'est ça, c'est en fait la saison du PSG, elle est découpée comme ça. Donc l'année dernière, dès la première phase, ça sentait le roussi. On va voir maintenant.
Bon, en tout cas, Nasser Al-Khelaïfi est en France et à Paris, donc c'est déjà un signe parce que souvent cette année on le cherchait. Là, il est là. Voilà. Maintenant, comme tu dis, à avoir les décisions.
Je sais pas quand est-ce qu'il va faire l'interview. Je sais pas qui va choisir pour discuter. Bon, il y aura de la crème barane, ça c'est certain. Mais après, on ne sait pas trop où il ira pour faire les grandes annonces.
Bon, oui. Après, il peut même les faire sur les médias de son club, si veut. Enfin, ça, au final, ça n'a pas trop d'importance.
Non.
Non. Bien sûr que ça n'a pas d'importance là où il le fait, évidemment. Bon, après, il préfère être dans le confort quand il fait son interview aux promesses. S'il venait ici pour son interview aux promesses, je pense qu'il serait un peu secoué.
Il est le bienvenu, hein, s'il veut venir.
Oui, mais toi, t'as pas de crème Barane.
Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ça se fait encore.
Ah oui, la crème, c'est une marque connue quand même.
Si tu as des souliers
c'est
en cuir.
C'est pas de bonne qualité, hein. c'est de la crème de cirage un peu bas de gamme. Mais
néanmoins. Des souliers en cuir, mais comme on porte de plus en plus de sneakers.
Rien à voir avec Paco Barane. On l'avait oublié, lui. Bon, voilà pour ce dossier. Maintenant, on va parler de Mbappé.
Alors, pourquoi on ne demande pas on devrait demander.
De quoi?
On le connaît, le DIRCOM.
De Barane?
Du PSG.
Ah bon?
On devrait demander. Viens faire l'interview promesse.
Pascal Ferré, ancien France.
On lui a pas demandé. Bah, probablement, justement, il ira chez France Foot parce que son DIRCOM est un ancien. Mais, encore que maintenant, comme c'est un mensuel, on sera l'équipe. Mais on devrait demander, tiens. On n'a jamais demandé ça.
Oui, c'est vrai.
Très bon dernier numéro, d'ailleurs, de France Foot.
Ouais, je vais lui demander.
Demande-lui.
Je pense que on part avec un 2%, mais.
Ouais, mais.
Avec une paire de deux. Une paire de deux, une paire de quatre.
C'est toujours mieux que d'avoir 7 et 2 ou 9 et 2.
Oui, mais on part avec une paire de 2. Peut-être on n'a pas 7 et 2 non plus.
Ouais.
Dans un instant, Mbappé. Et puis, il faudra également qu'on parle dans quelques instants, les gars, c'est important, de ce qui se passe à Toulouse. Parce que vous savez qu'à Toulouse, on a donc officialisé les départs de certains joueurs.
Vanden Boomen.
Et en fait, c'est marrant parce que finalement, ils rebondissent assez vite, là, tous, et gratuitement. Donc, est-ce que tout ça a été bien géré par Toulouse? On en reparlera tout à l'heure.
Oui, tu fais bien de parler de ça parce que ça m'a un peu marqué ce week-end là, quand j'ai vu la fête et quand j'ai compris que ces joueurs-là allaient partir. Donc, j'imagine que la machine à data va faire en sorte de les remplacer. Mais bon, c'est là quand même qu'on touche concrètement ce qu'est le système, hein, c'est que tu ne t'attaches pas à des joueurs, tu t'attaches à la data. J'imagine que les supporters avaient créé du lien avec ces joueurs-là, ils ont vécu une super aventure avec la Coupe de France, et à Coupe d'Europe l'année prochaine, généralement on aimait bien quand les aventures continuaient comme ça, tu repars, surtout quand t'en découvres une nouvelle, à savoir la Coupe d'Europe avec les joueurs qui t'ont fait rêver dans cette finale de Coupe de France, eh bien non. Donc c'est notre système français qui te propose ça. Et ça me fait penser également, je ne sais pas si tu as prévu qu'on parle de Lens, mais Lens, tout est en fait, c'est champagne à tous les étages. Bah écoute, moi, dès ce week-end, petit bémol. Bah, la réaction de Francaise, allez, peut-être même gros bémol, vraiment.
On va en parler dans quelques instants, bougez pas, l'after revient tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h34, l'after est là jusqu'à minuit avec Florent Gautreau, Daniel Riolo, avant de parler de Lens, de Toulouse, de Marseille tout à l'heure, puisque vous avez vu les infos de Florent Germain, Tudor, donc à l'heure où nous parlons, on semble plus s'orienter vers la sortie que vers un maintien, ce sera tout à l'heure. Mais d'abord Mbappé, donc Mbappé hier au fameux trophée annuel du foot, il dit toujours un truc, un trophée du foot, vous avez remarqué, c'est toujours le moment pour lui de faire une petite annonce.
D'ailleurs je pense qu'il devrait plus parler durant la saison. Les joueurs, et surtout au PSG, parlent beaucoup trop peu. La communication devrait les pousser à plus s'exprimer parce que c'est ça aussi qui fait qu'on se rapproche de son public. Quand on sait qui sont les gens, ils nous parlent, ils nous racontent des choses.
Mbappé, il s'exprime beaucoup avec trois mots sur Instagram et à chaque fois, ça fait du foin.
C'est un peu justement la nouvelle mode. Ils veulent maîtriser leur com en communiquant beaucoup sur les réseaux, mais au fond, ils ne disent rien. Alors que les gens ont besoin qu'on leur parle dans les médias pour leur dire je suis content, je suis pas content.
Lui, globalement, tout est maîtrisé. C'est-à-dire
Oui. Non, mais moi, je dis juste un peu plus d'interviews.
Ouais, mais là, interview, parce que là, en l'occurrence, ce que je disais hier soir dans l'after, les deux phrases, elles sont quasi similaires, elles ont lieu sur scène et derrière en zone mixte, donc il y avait clairement.
Il y avait éléments de langage.
Éléments de langage avec la fin de contrat.
Il est tout calibré, oui.
Et quand il balance son truc sur Le Graët et Zidane, c'est sur les réseaux, mais ça a de l'impact quand même, donc. De com, là, pour le coup, il est.
Mais, en fait, la vraie question est la suivante, et je sais que vous en avez dit un mot hier soir, mais. Et il y a pas mal de réactions sur Direct Studio, j'en prends la dernière, Julien, qui lui dit donc Mbappé, en fait, il est au-dessus du club. Puisque donc, en gros, c'est oh, bon, là, j'ai décidé ça, ou pas ça, et puis ça, et puis voilà. Et puis surtout, ça veut dire que là.
En l'occurrence, qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit je reste.
J'ai un contrat.
Quel problème, j'ai un contrat, je
respecte
reste.
Le contrat.
Oui, il aurait pu dire je veux partir.
Non, en fait, j'ai un
et donc là, ça veut dire qu'il va partir libre.
Non mais j'ai un truc que j'ai du mal à comprendre. Mbappé, il y a de plus en plus de gens qui lui en veulent. Mais en fait, on lui en veut de quoi? On l'a expliqué la semaine dernière. Le club lui a certainement donné trop de pouvoir, mais et lui il l'a pris. Ou peut-être que c'est dans l'autre sens, lui qui a fait une sorte de chantage. Mais ça a été accepté. Le club l'a fait. Mais enfin, que je sache, depuis 10 ans, des clubs qui ont bavé sur le PSG, qui se sont mal comportés, qui ont manqué de respect.
Des joueurs, tu veux.
Qu'est-ce que j'ai dit? Des clubs. Non, des joueurs, pardon. Oui. Des joueurs. Excusez-moi. Des joueurs. De Zlatan, il n'y avait rien ici avant moi, et ses coups de colère dans le vestiaire à Bordeaux et ce genre de choses-là. À Serge Aurier qui chie sur tout le monde. À qui d'autre? Aux joueurs qui font pas 30 matchs par an. À Neymar, à Messi, à tous ces joueurs qui saluent jamais le public, rien du tout. Bah, excusez-moi, Mbappé, depuis qu'il est là, bah, il a toujours répondu présent. On peut, je sais pas, il a pas été formidable sur tous les matchs, mais il a quand même été plus souvent bon que pas bon.
Non, bah, c'est quand même incroyable. Chaque fin de saison, on se pose toujours la question de son avenir à chaque fois, et c'est à chaque fois un feuilleton.
Mais non, mais que ce soit un événement que Mbappé reste ou parte, c'est normal vu la dimension du joueur. Mais je parle plus globalement de ceux qui souvent émettent des critiques. C'est-à-dire, le gars, sans lui, cette année, t'es pas champion. Il te les met tes wagons de but. Il y a encore 3 mois, le match aller contre le Bayern se profile. Mbappé n'est pas là. Catastrophe. Il est pas là, c'est horrible. Le PSG fait un match horrible. Il rentre. Sur le quart d'heure où il rentre, il change un petit peu la physionomie de la rencontre. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que grâce à lui uniquement, tu vas te qualifier. Mais néanmoins, il valait quand même mieux l'avoir que de pas l'avoir. Il a quand même foutu le bordel dans la défense du Bayern. Il a quand même mis le feu. Et au match retour, il y avait 1 milliard d'experts et de supporters qui étaient là à croire que c'est à lui tout seul, il allait battre le Bayern. Non, la preuve de ce qui s'est passé au match retour, c'est que seul, il ne peut rien faire. Et qu'évidemment, il va falloir construire un collectif autour de lui. Mais que ça reste le joueur phare du club, le meilleur, celui qui répond présent beaucoup plus que les autres, ça, c'est une vérité. C'est vraiment la dernière personne sur qui il faut taper, Mbappé. Qu'il ait un caractère qui puisse emmerder certaines personnes, son arrogance, sa prétention et tout. Je veux, ok, si ça emmerde des gens, je veux bien les entendre. Mais sur sa performance sportive, le gars, il est stratosphérique à la Coupe du Monde. T'es pas champion si tu l'as pas. Mais tu veux quoi de plus que Kylian Mbappé? Enfin, faut arrêter à un moment.
Est-ce que le fait qu'il parte éventuellement libre vous choque?
Mais non, mais moi je m'en fous, moi. C'est de la gestion administrative et financière que le PSG se démerde. Ils ont assez de thunes pour assumer ça. Et si jamais il devait partir libre, eh ben ça veut dire que le PSG aurait très très mal géré cette situation.
Nasser Al-Khelaifi avait dit jamais il ne partira libre.
Eh ben alors peut-être que jamais il ne partira libre et qu'ils vont lui faire une rallonge et qu'ils vont encore mettre des milliards dessus. Ça, ce côté-là, je dis pas que ça a été bien fait, hein, loin de là.
Flo, ton avis?
Non, mais en fait, Mbappé, lui, dans l'histoire, il a tout fait bien pour lui. Ça dépend si tu raisonnes du côté de Mbappé ou du côté du Paris Saint-Germain. Si tu raisonnes du côté du Paris Saint-Germain, ils ont été, on rappelle, à la bourre quand ils l'ont rattrapé par la manche parce qu'ils avaient pas décidé clairement d'en faire le centre du projet. Et le fait d'être parti en retard a fait qu'ils ont été obligés, ça a été leur stratégie, de lui faire un pont d'or d'une part. Et effectivement, l'erreur est surtout là, c'est pas tant le pont d'or que de lui de supposer qu'il fallait lui donner du pouvoir ou de lui laisser entendre qu'il aurait du pouvoir ou une idée à donner sur l'effectif autour de lui, etc. Ça sont des erreurs du club. Bon, on va pas y revenir, on a déjà beaucoup parlé. Mais de son fait, moi je trouve qu'au contraire, et je le répète par rapport au timing, je trouve que le fait hier de ne pas jouer justement la starlette en laissant entendre que ou en ne disant rien, peut-être un peu comme Hez d'ailleurs, puisque je crois que Daniel veut parler de ça pour Lens, je trouve qu'au contraire, là il est clair. Et lui, c'est pas de sa faute si effectivement il part l'an prochain. Il a pas dit ça d'ailleurs non plus. Mais bon, on peut penser qu'évidemment il a quelques autres idées pour la suite de sa carrière. C'est pas de sa faute si le contrat s'arrête en 2024. Après, ils peuvent renégocier effectivement pour le faire prolonger jusqu'en 2025 là dans 6 mois et pour que le PSG s'en sorte bien. Mais moi je trouve que Mbappé, il y a un truc qui me gêne, mais je l'accepte. Hein. Moi, j'adore ce joueur, j'adore sa communication. Enfin, je trouve pas beaucoup de défauts, mais dans cette volonté, moi, j'aime pas les cérémonies comme hier. J'aime pas le Ballon d'Or. Enfin, j'aime pas. Je m'y intéresse. Hein, franchement, je connais l'histoire du Ballon d'Or. J'ai encore lu. Je parlais de France Football. J'ai relu encore des choses sur Belanov dans le France Foot dans le dernier. Mais ce n'est pas ma conception du foot, ces trucs individuels. J'ai vachement de mal. Toi, même les équipes, tu sais, les équipes types qu'on a vues dévoiler, pour moi, elles ont quand même un goût bizarre. Tu sais, il y a une sorte d'assemblage hétéroclite de joueurs qui n'ont rien à voir ensemble. Pour moi, c'est un peu bizarre, tout ça, c'est un peu fake. Donc, tous ces trucs individuels, ça me gêne un peu. Donc, ça me gêne un peu, et même si je le comprends, qu'un Mbappé, par exemple, soit ultra concerné par aussi tous ces trucs-là de records perso. Tu sais, il a dit je veux marquer l'histoire du foot. Bien sûr, il va marquer l'histoire du foot.
C'est totalement football moderne en revanche.
C'est football moderne. Je ne crois pas effectivement que même un Pelé, par exemple, ait dit à son époque, tout en le faisant, je veux marquer l'histoire de mon sport, je veux rester dans l'histoire de mon sport, je veux. C'est la seule chose, voilà, je vais mettre ce bémol.
À son époque, il n'y avait pas de ballon d'or.
Même en règle générale, effectivement, je pense qu'il y a un peu effectivement un défaut de l'époque, mais c'est comme ça et c'est pas grave. Je suis prêt à accepter ce défaut-là parce que pour le high, je trouve, moi, que ce gars qui a à gérer toute cette pression, toutes ces choses autour de lui, le fait admirablement bien sur le terrain. C'est-à-dire qu'il reste performant très, très, très souvent. Il reste deux choses. Le bémol sur ce jeu et le record absolu, le nombre de ballons d'or, comme je détestais ça entre Messi et Ronaldo. Je parle de leur lutte pour le ballon d'or. Pour moi, aucun intérêt. Ils ont une immense carrière sans ça. Et plutôt faire gagner les clubs. Et il l'a redit en parlant du PSG. Et puis l'autre, le bémol pour Mbappé, c'est quand même, il faudra s'y attarder, dans le jeu, quand tu vois City et Haaland, quand même, le manque d'effort aussi qui le concerne, parce qu'on a beaucoup tapé sur Messi à ce sujet, il faut quand même re-regarder aussi de Mbappé dans des matchs compliqués où il s'absente pendant assez longtemps, et aussi sur le manque d'effort dans la récupération et dans le travail défensif. Et quand des entraîneurs disent encore ah ben oui, il y a des joueurs, on peut les dédouaner de ça, ils peuvent se passer de ce genre de choses, Haaland et Guardiola montrent l'inverse. Donc je pense qu'il y a encore, il y a quand même des débats foot à avoir, même s'il est très très performant. Et il y a aussi un petit débat sur cette histoire du foot et cette vision ultra individualiste des trophées.
Riyad, bonsoir.
Oui, bonsoir. L'équipe, ça va?
Ça va et toi?
Ça va, merci. Ça fait plaisir d'être là, enfin.
Ah, bah ouais, pourquoi tu n'y arrivais pas?
Non, j'ai eu du mal un peu.
Bon, bah ça y est, tu es là. Donc on t'écoute sur Mbappé, quel est ton avis à toi?
Non, moi je voulais revenir sur ce qu'il a dit Riolo, il a dit qu'il fallait...
Tu peux l'appeler Daniel, hein.
Non, Daniel, comme ouais. Tu veux, hein, si tu veux, moi j'aime bien, on peut s'appeler par les noms de famille, un peu à l'américaine, c'est bien.
Daniel, excuse-moi. Ouais, il a dit qu'il fallait construire une équipe autour d'Mbappé.
Oui, enfin un collectif.
Mais moi, je veux juste revenir sur quelque chose. On se rend compte qu'on veut construire une équipe et un collectif autour d'un mec qui ne court pas. Autour d'un mec qui, quand il n'a pas la balle, il marche sur le terrain. Ça, c'est un truc qui me dérange.
Quand il a la balle, il court vite, en l'occurrence.
Oui, mais à quoi? Mais oui, mais.
Mais je suis d'accord, mais est-ce que tu ne crois pas, par exemple, que, après je te donne la parole, qu'un coach. Justement, le bon coach peut aussi faire la différence là-dessus.
Moi, je pense que ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais alors je pourrais te donner les exemples comme à la Coupe du Monde avec Messi, qui néanmoins quand il a été mis dans un collectif, on l'a vu faire des efforts qu'il ne faisait pas. Construire l'équipe, c'est pas un mal, hein. Il y a beaucoup d'équipes qui ont été souvent construites autour d'un homme, même si. Mais attention, ça veut pas dire que le collectif perd de sa force. Mais je suis de l'avis de Flo. Je crois que le jour où l'équipe sera correctement construite, je pense qu'il s'y mettra aussi. Je veux bien que tu lui reproches parfois un manque d'effort, mais quand tu n'es pas entraîné par les autres, quand personne ne travaille dans l'équipe, ou quand l'équipe de toute façon n'est pas au niveau et que le collectif n'existe pas, ça marche moins bien. Avec l'équipe de France, j'ai pas l'impression qu'il faisait des efforts de dingo. L'équipe de France est allée en finale et lui a été stratosphérique et a souvent sauvé l'équipe. Hein. Et c'est lui qui a tiré l'équipe jusqu'en finale. Maintenant, mon idéal à moi, c'est que tout le monde fasse les efforts, lui compris. Mais si à l'arrivée, il fait 2 kilomètres de moins que les milieux de terrain ou que d'autres joueurs et qu'il est décisif, on acceptera. Mais l'important, c'est enfin de trouver un collectif, ce que ce club n'a plus... Depuis la première année de Tuchel, enfin tu vois, je sais même pas quoi.
Oui,
tu vois.
Je suis d'accord, mais regarde, moi je veux revenir aussi sur quelque chose que tu avais dit dans ton podcast en 2018 et que j'avais kiffé et que j'ai pas sur ce téléphone-là, sur l'autre. Tu avais dit les tâches défensives de Mbappé, c'est inacceptable, ça n'existe pas dans le foot. Gagner une Ligue des Champions avec un joueur qui marche sur le terrain quand il n'a pas la balle, ça n'existe pas. Et je vais même te dire quelque chose. Tu peux me ramener les meilleurs milieux de terrain du monde, le meilleur coach du monde, les meilleurs ailiers. Quant à, bon pour notre cas à nous, deux joueurs qui marchent sur le terrain.
Non, deux de toute façon, c'est impossible. Tu le sais bien, on l'a toujours dit.
Je crois
que si vraiment ils repartent et que le collectif est construit, je pense qu'il s'y mettra plus. Je suis sûr qu'il sera pris par la dynamique. Il sera pris par la dynamique, il jouera différemment. J'en suis convaincu.
Moi, j'y crois pas trop. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit le directeur sportif, le président ou même le futur coach, à un moment, il faut quelqu'un qui l'aille le voir et qui lui dise. Courir ou partir, c'est pas possible.
T'es quand même d'accord que avant de faire des reproches à Mbappé, depuis 2 ans, 3 ans, il y en a quand même un paquet d'autres à qui il faut faire des reproches dans cette équipe. Moi, c'est ton sujet.
Excuse-moi,
t'as choisi d'appeler pour parler de ce sujet-là. C'est ton choix, je le respecte. Mais, écoute-moi, t'es quand même, enfin, depuis 2 ans, 3 ans, c'est quand même le dernier à qui tu peux faire des reproches. Si on fait la liste de ceux qui sont pas foutus de faire 30 matchs dans l'année, ceux qui ne courent jamais, ceux qui ont des performances largement en dessous de leurs moyens, Mbappé, c'est quand même le dernier à qui tu peux faire des reproches quand même.
Qui ne court pas sur le terrain ? À part Mbappé, Messi ?
Bah, quand ils étaient là tous les trois, Neymar, Messi...
Neymar, c'est celui qui court le plus des trois.
Mais ok, il court le plus des trois, mais il court n'importe comment. Il court pas pour l'équipe, il court pour lui. Et pour bon, mais non, mais tu vas pas défendre Neymar par rapport à Mbappé. Sinon, on ne va plus discuter. L'autre, il chie sur le club depuis 5 ans.
Non, mais moi, je vais.
Tu vas pas me défendre Neymar par rapport à Mbappé, pitié.
Non,
moi, tu peux pas faire partie de ces gens-là.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont pour Neymar. Hein. Mais Neymar,
il insulte le club toutes les semaines. Encore ce week-end. Il va même pas fêter le titre. Il va à Monte-Carlo. Mais de quoi tu parles? Mais ouais, t'as pas le droit.
Est-ce que sur le terrain il insulte le club? Sur le terrain, quand il joue, quand il a la balle, est-ce que Neymar insulte le club? Non, je suis désolé.
Mais il fait 30 matchs par an, de quoi tu parles? Il est jamais là.
Bah moi personnellement.
Non mais fallait commencer par ça, moi je peux pas, je me refuse. Non, je refuse, je peux pas parler avec toi. Je peux pas. Pas Neymar, tu peux pas venir me défendre Neymar. Le mec qui a 3 ans, il veut partir l'été, il joue jamais, il est toujours blessé, il joue la nuit. Mais non mais de quoi on parle? Tu vas pas me défendre ce mec?
Mais parce que tu me parles de l'extra sportif, moi je te parle sur le terrain. On donne 70
millions. Mais il est pas là. Arrête avec ça.
Ça sert à rien de hurler.
Mais c'est incroyable de dire ça. Il est pas là, il fait 30 matchs par an.
Riyad, vas-y.
Donc toi tu trouves normal qu'on donne 70 millions d'euros à un mec qui quand il perd la balle, il marche sur le terrain à 100% des matchs du PSG. Mais on est où, frère? On est là, Mbappé.
Allez, c'est bon, arrête. Et moi, je rentre pas dans ce débat. Pour moi, les gens qui défendent Neymar, c'est des gens qui comprennent rien.
Non, mais là, ils parlaient de Mbappé, en l'occurrence.
Mais non, mais c'est parce que j'ai bien compris. Maintenant, il y a cette espèce de petite rivalité avec Neymar. Non, mais c'est insupportable. Je peux pas considérer un mec qui se fout du club, qui a pas envie d'être là, qui salue pas les supporters, qui a une attitude détestable, dégueulasse, qui fait même pas 30 matchs par an, qui a rien fait depuis qu'il est là. Non, mais vraiment, je comprends. Ça, vraiment, je peux pas. Là, vraiment, je peux pas. C'est plus fort que moi. Et le mec se dit supporter du PSG, je peux pas admettre ça. Pour moi, il est supporter depuis 5 ans. Il n'est pas supporter du PSG. T'es pas supporter du PSG. T'es supporter de Neymar, c'est tout.
Moi, je vais te. Non, mais moi, je voulais
je pas. Je pense que tu connais pas le PSG, Riyad. Tu connais pas le PSG.
Riyad, vas-y, t'auras le mot de la fin.
C'est pas ton club.
Moi, je voulais pas parler de Neymar. Je t'aurais dit la même chose sur Verratti. C'est juste parce que tu m'as parlé de Neymar, je t'ai parlé de Neymar. Moi, ce que je te dis, Daniel, c'est que la vérité sur le terrain, quand tu sors de chez RMC, et que tu vas demander à 1000 personnes ce qu'ils en pensent, il y en a beaucoup qui vont te choquer, qui vont te dire, j'en peux plus de voir un mec qui marche sur le terrain.
Non, arrête, ça c'est les PSGX qui disent ça, c'est ta bande, c'est toi, vous connaissez rien à l'histoire du club. Pour moi, vous n'êtes pas des supporters du PSG. Vous pouvez pas, un supporter du PSG ne supporte pas qu'un joueur n'aille jamais saluer le public, dise je vais partir, va fêter le titre de Barcelone, passe le week-end.
Mais il parlait de Mbappé là, toi tu fais une fixette sur Neymar.
Et parce qu'il défend Neymar au fond, j'ai bien compris le manège, c'est bon, je sais lire en eux. Bon. Il, son truc, Neymar il court pas, Mbappé il court pas. C'est le mec, il est tout le temps bon, cette année tu l'as pas, t'es pas champion s'il est pas là.
Bon allez, on va s'arrêter là.
C'est lui qui fait la différence tout le temps. De quoi on parle?
Parfois c'est comme ça, on termine sur un moment de discussion sur une incompréhension.
Il y a pas d'incompréhension là c'est un point de non-retour. Je mets vraiment que par pitié que tous ces gens quittent le club, ne supportent plus jamais le PSG quand Neymar sera plus là. Que Neymar et Messi quittent le PSG et qu'on puisse abandonner tous ces gens là. Mais tout, que tous ces gens aillent supporter un autre club, mais vraiment, c'est une purge. Ce club a besoin d'une purge.
Ouais, mais le Red Star monte pas, c'est dommage.
Non, mais, ouais. Mais de toute façon, ils s'en foutent, ces gens-là. C'est les gens, c'est, bon, les gens qui, c'est les gens qui supportent des joueurs, ça. Ça, c'est la gangrène du football. Ça.
Dans un instant, Toulouse est dans son programme avant de parler de l'OM. On revient tout de suite à l'instant.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h53, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là. Oui, alors Toulouse, les gars. Donc, Van den Boomen a signé 4 ans à l'Ajax, gratuit. Il a quitté en fin de contrat. Et Spierings, lui, bon, il est hollandais, pourrait, dans les heures qui viennent, signer au PSV Eindhoven. Lui aussi, libre, gratuit. Alors c'est toujours pareil, tout à l'heure on parlait d'Mbappé, Daniel, tu disais on s'en fout qu'il parte libre ou pas. On connaît le.
Pour Toulouse, c'est pas pareil quand même.
On connaît la stratégie de Toulouse. Van den Boomen, ils auraient bien aimé le vendre plus tôt, j'ai l'impression. Ils n'ont pas réussi ou ils n'ont pas voulu, ou le moment ne s'est pas présenté comme ils auraient voulu. Bon, enfin voilà. Donc là, alors est-ce que c'est une limite aussi des datas? Est-ce que la gestion club là a été un peu mise de côté? Enfin, comment est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu coup dur quand même. Là, tu as des joueurs qui ont une certaine valeur et hop, ils ne te rapportent rien. C'est Toulouse qui les a finalement mis, comment dirais-je, en lumière.
Je peux pas penser que Comolli, qui gère tout avec son ordi, il n'ait pas anticipé que ça puisse se passer comme ça. En gros, il avait des joueurs, il les a, enfin, pas valorisés dans le sens où il a pas pu les revendre, mais leur apport, parce que de toute façon, c'est des joueurs qui n'ont rien coûté. Donc leur apport,
pas grand-chose.
Leur apport sur le terrain a été conséquent. Ils ont été bons, ils ont permis au club d'abord de monter, puis de gagner une Coupe de France. On peut dire que tu as tiré à peu près tout ce que tu pouvais tirer de ces joueurs-là. Maintenant, il va remettre son logiciel en route, il va trouver d'autres joueurs pour 3 francs 6 sous, et il va reconstruire une équipe. Moi, ce que je regrette, parce que moi, je ne suis pas dans la gestion, hein, je ne suis pas Micheline de Toulouse, moi, hein, je ne suis pas au service compta, savoir s'il les vend gratos ou pas. Non, moi, ce qui m'embête,
ils sont en fin de contrat.
C'est que ce système-là de data, c'est en gros l'autre il s'amuse, il fait ses recrutements, mais que tu n'as pas d'histoire, tu ne crées pas une histoire. Alors les supporters de Toulouse me répondront que de toute façon, vu d'où ils viennent, ce qui s'est passé sur les 2 dernières années avec au bout une Coupe de France, bah ils sont satisfaits à 100% et ils auront raison. Mais tu construis pas comment dire d'histoire avec une équipe, une aventure commune où les gars gagnent la Coupe de France et puis ils vont jouer la Coupe d'Europe ensemble et puis tu t'attaches un petit peu à certains joueurs. Là, en gros, t'as l'impression ils sont venus. C'est l'employé, tu l'embauches 2 ans, il a hop voilà, il a fait son taf. Au revoir monsieur, votre mission est terminée. Bon, ça fait ça force le trait de ce qu'on appelle le foot moderne là du trading quoi. Bon. Okay, très bien.
Ton avis ?
Bah non, c'est quand même un truc un peu particulier parce que je suis pas certain que ce soit facile comme ça d'un claquement de doigts de recréer quelle que soit la data. Parce que là, tu parles quand même de joueurs. Il y en a 4 hein, en fait.
Oui,
joueurs.
Oui,
il y a Dupé,
deux Jagereux
et deux Jagereux qui est quand même le capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que Van den Boomen, faut se souvenir qu'il avait été excellent dans l'année en Ligue 2. On pensait même qu'il ne monterait pas avec Toulouse, enfin qu'il ne continuerait pas en Ligue 1. Ça a été le cas. Donc là, comme disait Daniel, il y avait quand même une petite histoire qui s'est écrite. Il est monté, il les a fait monter parce qu'il avait genre un truc de fou en passe décisive. En D2, c'est un truc de dingue.
De D2.
Bon, c'est toujours un gars assez incroyable d'ailleurs sur les coups de pied arrêtés, évidemment. Donc tu as Spierings, De Jagereux, Van den Boomen. C'est pas n'importe qui. C'est donc là quand même.
Il a tout à reconstruire.
Là, on n'est pas loin quand même, effectivement, de l'erreur de même si ça paraît fou parce qu'il est évident que les dirigeants le savaient, mais c'est quand même. L'armature, c'est des titulaires, c'est tous quasiment des titulaires indiscutables, 3 sur 4 au moins. Donc, c'est quand même un vrai souci. On est dans le cas quand même de, à mon avis, effectivement, des limites un peu du système, parce que je vois pas de toute façon comment tu peux t'en sortir. Hein. Mais si l'idée c'est de progresser chaque année, c'est-à-dire que là, Toulouse a gagné son titre sur la Coupe très bien et s'est maintenu relativement facilement. Ok, donc l'étape suivante, tu vas jouer la Coupe d'Europe. Donc l'étape suivante, c'est qu'est-ce que tu fais en Coupe d'Europe et qu'est-ce que tu fais pour faire mieux en Ligue 1. Là, à chaque fois, on va reparler un peu sur l'OM. On est dans des cas un peu similaires où tu remets c'est comme si tu effaçais un petit peu une partie de ce que tu avais fait et tu recommences. Alors, c'est remarquable parce que ce soit Longoria à Marseille ou Comolli à Toulouse, ils font du bon boulot, ils te trouvent à chaque fois de très bons joueurs et les coachs les gèrent, on va dire, ces tours de Babel super bien. Mais c'est quand même enfin, toujours pareil, hein, hier j'ai parlé de projet, sur l'idée d'avoir quelque chose, d'une progression un peu constante et d'aller un peu vers le haut comme ça, avec un projet qui se suit, c'est quand même un petit peu inquiétant.
Dans un instant, on aura Paul au 32-16 et puis on parlera de Francaise et donc des questions qu'il pose avec ses déclarations récentes.
Il était beaucoup plus clair que Francaise, hein, d'ailleurs, là, au passage.
Oui, ben, on va y en venir.
Pour et ça, puis tu dors, peut-il rester absolument. Gros bémol. Gros bémolaise.
Voilà. Les bémols arrivent dans l'after dans quelques instants. À tout de suite.
C'est une consigne du coach, mais c'est une consigne de moi-même. Je sais que la profondeur, c'est un de mes atouts.
Je veux pas dire qu'il nous manque la réussite. Il nous manque la réussite, mais il nous manque pas que la réussite. C'est qu'il nous manque aussi le petit truc en plus de faire encore plus et beaucoup plus.
Mourinho, il vous a dit l'année dernière, mais vous voulez pas l'écouter, tout le monde est monté au créneau. C'est le centre de formation de l'Europe. On est devenu de la Yougoslavie des années 70. Vous voulez pas l'écouter? Ben, n'écoutez pas.
Mon choix était fait. Même si le Real de Madrid venait à ce moment-là, c'était fini. Mon choix était fini.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Eh oui, vous avez entendu la Temberf, hein, Frédéric Antonetti. Bonsoir, d'autant un peu toutes ces déclarations. Bon, c'est toujours sympa. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Avant de parler de Lens et de l'OM, concluons sur Toulouse avec Paul, au 32-16, supporter du TFC. Salut Paul.
Salut les gars, salut Gilbert, salut, salut Flo, salut Daniel.
Bon, ça te contrarie là, ces départs que le club semble pas avoir maîtrisé comme il le fallait?
Ben franchement, je m'y attendais. Hein. Ça fait un moment que c'était en pourparler. Je m'y attendais. Mais après, on parle des quatre départs parce que c'est les quatre départs qui ont été officialisés par le club avec Dupé, Deyagüe, Spierings et Vandenboumen. Mais je pense que Fares Chaibi va partir aussi. Enfin, il a changé d'agent pour gérer son été. Je pense qu'il va partir. Ça parle d'un départ de Ratao. Je pense que Anthony Rouault risque de partir aussi. Là, au bout d'un moment, il aura envie d'aller voir.
Ouais, ce joueur sera demandé et il va partir, oui.
Mais c'est la génération Manu Koné, Amin Adli, tout ça. Il voit ses potes qui sont partis voir ailleurs. Je pense qu'il aura envie d'aller voir ailleurs aussi. Et puis, il est bon, hein, donc il sera convoité.
Et Abouklal, là, c'est peut-être le club qui va vouloir le vendre.
Ça parle de Brighton, je crois.
Ah bah, Abouklal, qui, soi-disant, s'était racheté une virginité là, récemment. Là. On en a rencontré une belle dans un avion. Là. C'est vraiment quelqu'un qui se comporte très, très bien dans la vie. Vraiment, là on est sur une lumière. Hein.
Ah, il va avec
lui,
il va passer et tout, il va partir. Et puis l'affaire, enfin, on va pas en parler, mais avec Laurent Sarribagé, ça a été étouffé, tout ça, c'est pour qu'il puisse partir serein et que le club puisse.
Absolument. Je suis content que tu dises ça parce qu'on n'a jamais reparlé de cette histoire. Évidemment, non seulement nous soutenons les reporters d'RMC qui connaissent la vérité de cette histoire-là, et évidemment que l'histoire a été étouffée parce qu'en plus, Madame Sarribagé. A reçu, on va dire, des messages assez perturbants qui ont fait qu'il valait mieux mettre la poussière sous le tapis. Et effectivement, je ne pense pas que ce joueur soit quelqu'un de très très recommandable. Et on m'a raconté beaucoup d'histoires et vraies, de solides témoignages sur notamment un vol Rabat à Toulouse. C'est quelqu'un, oui, Toulouse peut se séparer de ce mec-là, oui, oui, oui.
Et après, vous parliez d'affect et tout, etc. et tout. Moi, je m'étais vachement attaché à Vandenboumen en tant que supporter. Enfin, je suis abonné depuis des années au Stadium. Je m'étais vachement attaché à Vandenboumen, Deyagüe, tous ces joueurs. Daniel parle souvent des joueurs du PSG qui viennent jamais saluer leurs supporters à juste titre. Bah, à Toulouse, c'est cette équipe, il y avait un vrai relationnel qui s'était créé avec les supporters. Ils venaient toujours nous saluer. Moi, je suis abonné en virage. Ils venaient toujours saluer le virage à la fin du match. C'est l'époque aussi. Avec les arrivées de Deyagüe. Et Deyagüe, d'ailleurs, l'a dit, ils ont fait une petite cérémonie. J'étais au match contre Auxerre ce week-end. Il disait, je suis arrivé, il y avait 3000 personnes dans le stade. Aujourd'hui, le TFC, c'est 25 000 en moyenne au stadium, sur un stade qui a 33 000 de capacité. Donc, en fait, toute l'affluence, tout ce mouvement qui a existé autour des supporters, ça s'est fait avec ces joueurs-là. Donc, en soi, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu d'affect qui soit développé avec ces joueurs-là. Et pour moi, il y a eu l'époque Batles, Elmander, etc. au TFC, l'équipe qui avait fait un tour préliminaire de Ligue des Champions contre Liverpool. Et pour moi, il y aura eu l'époque des Jagüreux, Vandenboumen, ouais.
Spierings. Il y en a eu d'autres des époques. Il y a eu l'époque Marsico. Il y a eu l'époque.
Ouais, il était pas né.
Non, mais après, bon. Moi, je n'étais pas né. Ouais.
Marcico, oui, c'est bien, mais je veux dire, voilà.
Oui, non, mais voilà. Enfin, Vandenboumen, et bien sûr qu'on aurait aimé qu'il reste. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Honnêtement, je préfère un club avec la data maintenant où on a du jeu que la fin de l'époque Sadran où on entendait les mouches voler au stadium. Hein.
Après, oui, non, mais ça je suis d'accord avec toi. Mais on va retomber dans quelque chose qui fait notre football maintenant. C'est que Toulouse va aller directement en Coupe d'Europe et que probablement, Bah, je sais pas.
Il va pas y faire grand chose, tu veux dire?
J'ai du mal à imaginer qu'ils sortent même de la poule, quoi, en fait. Et puis parce qu'en fait, ça sera même pas leur priorité, parce que le fonctionnement du club avec Data comme ça, c'est de rester en Ligue 1, d'essayer de valoriser des joueurs, et la Coupe d'Europe, je pense même qu'elle sera même pas prioritaire, quoi. C'est ça qui est terrible. Ils vont être en plus Toulouse, ils vont être chapeau 4 de l'Europa League.
Oui. Donc Europa League, il y a toujours
ça sortira même pas de la poule. Ça va même pas sortir de la poule. Voilà.
Faudra le gérer.
Ça va pas nous aider.
L'Europa League. Ouais, parce qu'on a tous les joueurs qui s'en vont. Enfin, exactement. 85% des titulaires. Moi, j'ai envie de faire confiance à Comolli et la direction aussi, parce qu'ils ont su. Bon, après, c'est pas la même chose et tout, mais ils ont su reconstruire une équipe l'année dernière. Il y a eu des départs majeurs aussi, même si ce sera pas la même chose cette année, évidemment. J'ai envie de leur faire confiance et Comolli avait dit dans la presse locale qu'il avait préparé tout ça et qui préparait une équipe compétitive en Europa League, même si j'ai du mal à le croire avec tous les départs qu'il y a. Et moi, je veux surtout qu'on finisse pas comme Nantes cette année, c'est-à-dire à jouer en semaine, avoir qu'une équipe, à pas savoir gérer ça, au final, à se retrouver dans la merde à la fin de la saison, quoi. Enfin, voilà. C'est ce que j'espère, que tout va pas s'écrouler.
Tu peux retrouver Liverpool en Europa League, hein.
Et ce serait une belle histoire avec l'histoire du tour préliminaire en 2007.
Tu pourrais avoir un groupe genre Liverpool, Ajax, un autre et Toulouse par exemple. Ça, c'est il peut y avoir des groupes assez.
L'idéal, ce serait d'avoir Liverpool pour faire refaire l'histoire du tour préliminaire et l'Ajax pour retrouver Van den Boomen au stadium comme ça. Si t'en vas à l'Ajax.
Bah ça, il s'est fait, c'est officialisé. Hein,
c'est officiel.
Salut Paul, merci pour ce témoignage. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Alors, on en arrive donc à Franck Haise, qui donc laisse planer un doute sur le fait qu'il reste ou qu'il ne reste pas. Comme l'a dit Flo, effectivement, Mbappé, c'était plus clair. Et donc là, c'est ton bémol lensois, Daniel.
En fait, je ne sais pas si je m'y attendais ou pas, en tout cas. Peut-être que ça coulait de source qu'il n'y ait pas ce bémol et qu'il n'y ait pas ce questionnement comme je l'ai là depuis quelques jours. Et effectivement, mon doute s'est amplifié après les dernières déclarations de Franck Haise, parce que moi, ce qui coulait de source, c'était que la belle histoire continue. Haise n'est pas au club depuis 10 ans non plus. Hein. Il a remplacé Montagnier en cours de route quand ça allait pas du tout en Ligue 2. Il a fait remonter le club. Ils ont fait une belle année où ils sont un peu rentrés dans le cœur de tout le monde par un jeu attractif et par la révélation de joueurs de talent. Ils viennent dans la foulée, ils enchaînent avec une année, celle qui vient de se terminer, où ils sont fantastiques, ils plaisent à tout le monde. Ils font deuxième. Tu vas en Ligue des Champions, tu fais champagne, la fête, le stade. C'était c'était concert géant samedi soir. Dans la foulée, va en Ligue des Champions, hein. Garde le maximum de joueurs, renforce l'équipe, poursuit l'aventure, va au bout, va en Ligue des Champions. T'es en train de te demander si tu vas changer de club. Alors je sais pas, peut-être il va rester, mais le fait même que le doute soit là, s'installe et que lui-même se pose la question, très franchement, ça me déçoit profondément. Ça me déçoit beaucoup. Moi, j'ai envie qu'il reste à Lens et je veux que le maximum de joueurs restent et que l'aventure se poursuive en Ligue des Champions. Parce que sinon, ça veut dire quoi? On en revient toujours à notre gros défaut qu'on a en France. C'est que les mecs font les grosses saisons. C'est génial, c'est la fête. Tu termines meilleur entraîneur UNFP. Tout le monde est content. Les supporters sont ravis. Et puis après, normalement, la récompense, c'est d'aller en Coupe d'Europe. Et la récompense, tu la prends et tu la jettes dans le caniveau. Voilà. On va tout reconstruire. Donc, comme si c'était un marchepied. Donc, finalement, Lens, c'est super. Évidemment, il restera dans les mémoires. Le mec, t'as remonté le club en Ligue 2. Tu vas terminer deuxième 2 ans plus tard. C'est génial. Mais t'en vas pas au moment où il y a la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ta récompense. Et c'est pas la petite Coupe d'Europe. C'est la Ligue des Champions. Tu vas ramener la Ligue des Champions à Bollard. Reste là. Joue. Déclare tout de suite que tu veux t'investir à 100%.
Il peut y avoir d'un intérêt, je sais pas, peut-être qu'il veut renégocier son contrat, son salaire.
Ouais, mais ne fais pas comme ça, va pas ternir un petit peu ce qui est en train de se passer. Moi, je sais pas, je trouve que là, ça a mis un voile qui me plaît pas. Oh, Francky, reste, quoi. Mais là, la Ligue des Champions, déclare tout de suite que tu veux, que tu veux continuer à kiffer avec cette équipe.
Vas-y, Francky.
Non, moi, là, vraiment, j'aime pas cette ambiance-là.
En fait, il y a un truc qui est en train de se passer, on en a parlé un peu hier. c'est le toujours dans l'individualisation des comportements, tu vois, et y compris du côté des entraîneurs. Je pense aussi encouragé par leurs entourages. Ce que tu as dit, Gilbert, à l'instant, disant il va peut-être renégocier. Oui, je pense que ça fait partie du truc en fait de sa déclin, parce que je pense qu'autour de lui, il y a des gens qui disent t'engages pas tout de suite en disant c'est bon, je reste, bien sûr, j'adore ici, j'aime tout le monde, c'est parfait. Tout le monde est un peu dans une posture, enfin beaucoup de gens, parce que pas tout le monde, beaucoup de gens sont dans une posture de négo. Et j'ai pas envie de jeter la pierre forcément à Francaise, parce que aujourd'hui c'est le système qui veut ça. C'est-à-dire que son agent, entre guillemets, a pu lui dire « Attends, si tu dois faire une décla, te jette pas direct en disant « Oui, bien sûr, c'est bon, on va discuter avec les dirigeants, mais il n'y a pas de raison. Laisse entendre que tu as des sollicitations, tu as des machins. » Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas reconnu vraiment le Francaise qu'on voyait d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de com, et il y a beaucoup de choses qui se passent avant dans ce genre d'événement, et qu'il y a beaucoup de comportements qui sont, que ce soit du côté des joueurs, et ça, on l'a déjà souvent dit, qui se foutent un peu de savoir s'ils vont rester 6 mois, un an et demi, de l'avenir d'un club dans lequel ils passent. Ça, c'est bon, voilà, c'est acté depuis déjà quelques années pour la plupart aussi des joueurs. Ben maintenant, du côté des entraîneurs, c'est peut-être un peu nouveau, mais tu t'aperçois que leur communication est importante. Pour avoir suivi l'année à Rennes et les conférences de Genesio, ben même quand ça allait moins bien, Genesio, en prenant la parole, d'ailleurs plus que les autres, avec l'intelligence d'ailleurs de le faire et de se servir, en gros, du magistère de la parole, eh ben, s'est servi un peu lui-même. C'est-à-dire qu'il a réussi à atténuer un petit peu ses erreurs, à dire que quand même l'effectif, les entre guillemets les dirigeants, le directeur sportif, même si c'est il est proche de lui, tu vois, c'est une façon aussi toujours dans la communication de dire c'est pas vraiment que de ma faute. Et puis c'est vrai qu'il avait aussi entretenu le doute, parce qu'on pouvait dire qu'il pouvait aller ailleurs, il pouvait tout ça a joué. Puis finalement il a à la fin, sans doute après avoir négocié effectivement ou avoir discuté avec ses dirigeants, il a annoncé qu'il allait rester. Mais je pense que cette posture-là, elle n'existait pas forcément avant. C'était pas une idée première dans l'esprit des entraîneurs qui, après une bonne saison, bah, avaient dans l'idée de continuer. C'était une logique. Maintenant, on est aussi dans cette logique à la fois marketing et de négociation, qui fait que même un Francaise, qui en com a été globalement parfait toute la saison d'ailleurs, je pense que là, il était dans une posture effectivement de négo et dans une posture de communication.
Teddy est là, supporter lensois. Salut Teddy.
Salut Teddy.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Teddy, on me dit que tu vis au Mexique?
Oui, je vis au Mexique, oui. Mes supporters de Lens depuis toujours.
T'es un ch'ti au Mexique, quoi.
Un ch'ti au Mexique, oui.
C'est Teddy Gonzalez. Est-ce que tu vis dans le nord du Mexique, du coup?
Non, on va dire plus dans le centre. Je suis pas du côté de Gignac. Je suis plus dans le centre, à 3 heures de la capitale, à Querétaro.
Ah, mais c'est là qu'a joué Ronaldinho.
Exactement. Enfin, joué. Où il est venu danser, quoi.
Ouais, en qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais au Mexique?
Je travaille, j'étais parti pour un long voyage.
Il construit un mur entre le Mexique et les États-Unis.
Au final,
t'étais parti pour quoi faire?
J'étais parti juste pour dans l'idée de voyager. Au final, je me suis installé ici.
Oh, ça sent l'amour. Ça sent à la meuf, ça.
Ça sent l'amour.
Ah, bah après, ça fait partie des motivations.
Ouais. Bon, et t'arrives à suivre à distance ton club, là? Tu vois les matchs?
Ah, bien sûr, j'ai toujours suivi dans tous les pays que j'ai fait, j'ai toujours regardé en streaming, sur Internet, je suis ça de près.
Bon alors, et Francaise, là, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ça te contrarie?
Ah, bah oui, ça contrarie, hein, forcément, après une superbe soirée samedi, où avec les larmes de bonheur, le lendemain, ça tremble un peu en entendant le disco. Je suis assez mitigé sur ce qu'il a dit. J'ai envie de me dire que c'est un coup de pression. Alors, je suis d'accord avec Daniel, si c'est un coup de pression, c'est dommage de le faire là, comme ça. Autant que ça reste en interne, je suis tout à fait d'accord avec Daniel, parce que ça fait peur en fait, c'est dommage, ça fait redescendre les émotions en fait le lendemain, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qu'on ne veut pas perdre, même avant les joueurs, je pense que c'est le coach. Donc ouais, ça refroidit un peu, mais j'y crois pas au départ, même si je me suis fait plusieurs réflexions, je suis allé dans plusieurs théories où je me suis même peut-être dit, bon, il a peut-être parti, il a peut-être envie de partir la tête haute.
Alors attends, je te fais un scénario. Imagine-toi que tout à coup, Radcliffe se réveille, qui s'intéresse de nouveau à Nice et qui dit, tiens, moi, j'aime bien, on va aller, on lui offre un beau paquet de pognon là, et on le fait venir, une offre qu'il peut pas refuser, tu vois. Il voit le truc, il dit bah ouais, c'est le contrat de ma vie, j'y vais. Tu te sentirais trahi?
Ah, totalement. Non, j'y crois pas une seconde pour aller jouer le milieu de tableau avec Nice, j'y crois pas, non. Avec tout le respect que j'ai pour les.
Ah bah, s'il va à Nice, je veux bien qu'on va lui vendre un gros projet parce qu'il connaît très bien le directeur sportif, mais c'est un pas en arrière. Honnêtement, moi, je le comprendrais pas. Je suis Lensois, je lui en veux.
Mais en fait, il est dans la posture de Galtier après Lille. C'est-à-dire qu'il signe à Nice, même s'il y a le projet derrière, tu peux toujours penser, est-ce qu'on croyait Galtier aussi à l'époque, est-ce qu'on croyait tous d'ailleurs, qu'il y avait un vrai projet, enfin, qui allait marcher plus fort. Mais voilà, c'était un peu la même chose. Et finalement, ouais, Galtier, dès qu'il a vu que ça n'allait pas, il est parti aussi. Bon. Non, mais la seule chose qu'on pourrait comprendre, pour être très clair, c'est évidemment que s'il avait un très très gros projet avec un très gros club, pourquoi pas, n'importe qui aurait le droit de réfléchir, tu vois. C'est voilà, mais ça représente très peu de possibilités, un faible pourcentage. Donc après, pour le reste, encore une fois, je pense que c'était de la com, que c'était prévu, et je pense effectivement c'est quand même un peu délicat d'avoir fait ça à ce moment-là.
Teddy, merci beaucoup.
Ben, je te remercie, je vous remercie à vous.
Et puis à très bientôt.
Continuez comme ça, c'est super de vous écouter d'ici avec les podcasts.
Ça marche. Bah écoute, à très bientôt, direct du Mexique, pour parler du Racing Club de Reims. On nous pose souvent la question de l'impossibilité d'appeler le 32-16 depuis l'étranger. En fait, Teddy a fait un truc très bête. Il a envoyé un message sur Direct Studio. Max, toujours branché, a vu le message de Teddy, il l'a appelé, et puis bah voilà quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc si vous êtes un peu partout dans le monde, que vous
Max
écoutez l'after
avec son téléphone perso en plus, donc il a vendu son appart,
il vous bip après, faut le rappeler
parce qu'il est obligé de vendre son appart là, si tu peux le rappeler.
Allez, dans quelques instants, l'OM Tudor doit-il absolument rester en débat dans l'after, dans quelques instants.
RMC 22h minuit, l'after foot,
Gilbert Brisbois.
Il est 23h19, Laurent Gautreau et là, Daniel Riolo est là également. Parlons de l'OM, parce que vous le savez, c'était hier sur le site rmcsport.fr. Tudor semble de plus en plus se rapprocher d'un départ plutôt que d'un maintien. Alors effectivement, quand on a appris ça, on était plutôt étonné. Mais au final, parfois c'est la vie des clubs. Et puis peut-être que lui, il a pas envie. Peut-être que Longoria non plus. Là pour l'instant, tout ça n'est pas très clair. On sait que dans les jours qui viennent, ça va sans doute se préciser. Peut-être même avant le dernier match de ce week-end pour l'OM. Bon, à Marseille tout de même, on semble déçu de la troisième place, notamment de là des derniers matchs suite ce week-end. A peut-être aussi joué. Bon, la question qu'on peut se poser là, un peu plus à froid, c'est bon, au fond, est-ce qu'il faut absolument, quand tu es un club comme Marseille, retenir un coach? Est-ce qu'il faut passer intelligemment à la suite? Enfin, quel est votre avis, les gars? Et ensuite, on en discutera avec les 32-16, avec les supporters marseillais.
Alors, déjà, moi, je suis pas sûr que la tendance soit comme celle que tu as décrite. Je pense que c'est pas décidé. Je pense que ça va se faire au terme d'une discussion qu'on aura. Longoria avec lui. Mm-hmm. Je pense que ça va aller très vite. Comme tu l'as dit, on va le savoir entre demain et dans 2-3 jours. Je pense que le président est plutôt pour continuer et que l'entraîneur ne sait pas trop. Peut-être lui qui décidera qu'un an ça suffit et que peut-être il a envie de retourner en Italie. Ça c'est possible. Donc la décision va lui appartenir à lui, je pense. Pour ce qui est du remplacement, moi je dis pourquoi pas. Je trouve que c'est bien quand il y a de la continuité dans un club. Mais après, regarde de Sampaoli à Tudor, et on était beaucoup à penser que ça aurait été peut-être une bonne idée que Sampaoli continue. Et d'ailleurs, c'était le projet qu'il continue. Et il est parti. Bon, finalement, ils ont quand même réussi à aligner podium. Mais d'ailleurs, je rappelle quand même que sur les 10 dernières années, l'OM a fait podium 4 fois, dont cette année. Donc 3 fois en dehors de cette année et une fois quand la saison a été coupée Covid là. Donc on ne sait pas comment ça se serait terminé. Donc là pour le coup par rapport à ce que disait Galtier sur la normalité du titre de champion, c'est pas du tout une normalité pour l'OM sur les 10 dernières années d'être sur le podium. Donc c'est plutôt un moment là dans l'histoire de l'OM qui est plutôt pas mal. Deuxième puis troisième, c'est plutôt un bon moment. Donc il faut rester dans cette dynamique. Éviter les déceptions comme celle de cette année, que ce soit en Coupe d'Europe et Coupe de France, mais surtout rester dans le haut, parce qu'on se dit toujours que la concurrence, elle va revenir. Tu vois, Lyon, ils ne vont pas rester dans les choux tout le temps. Monaco, bon, avec Lyon, on ne sait jamais. Mais tu vois, Lens, un invité peut-être surprise cette année. Rennes, on ne sait pas trop comment ils vont progresser. Enfin, on s'aperçoit que chaque année, tu as quand même un peu une équipe surprise en Ligue 1 et que finalement, ce n'est pas complètement acquis d'être sur le podium, même si le podium te semble promis. L'objectif pour l'OM, c'était podium. Ils y sont. Il y a des déceptions à gommer cette année. Est-ce que ça va se faire avec le même entraîneur? En tout cas, moi, s'ils changent, je ne crois pas qu'ils auront des difficultés à trouver un bon entraîneur. Hein. L'autre jour, j'ai cité Fonseca à Lille. Si jamais il devait être sur le marché ou si il avait envie de partir, bah, ça serait une bonne recrue. Il peut y en avoir d'autres, hein, des entraîneurs pour l'OM. Si Tudor est fatigué, si Tudor voit que son groupe peut pas être réceptif 2 ans de suite à sa méthode, je prendrais pas ça comme un drame total si ça devait se terminer, quoi.
Flo, moi je suis pas vraiment d'accord. Je pense vraiment que ça, c'est si moi je souhaiterais qu'il reste pour la continuité.
Ah, mais moi je veux bien. Moi je te dis que je pas. Mon idée est peut-être pas aussi arrêtée que la tienne. Non, mais s'il reste, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça on est d'accord. Mais je suis moins d'accord avec le fait que ce serait pas un souci. Si on changeait de
nouveau,
non, bien sûr, non, mais bien sûr que t'as des bons coachs et tu peux faire 10 ans de suite avec 10 coachs différents. Il y a plein d'idées, mais c'est pas l'histoire d'un club qui se construit. Et ce qu'on souhaite, parler du projet qu'il y avait déjà avec Sampaoli. Là, on pensait quand même que Tudor, ça allait être potentiellement
dans des styles
un projet
différents. Ils ont eu des coachs plutôt pas mal, Villas-Boas, on pouvait ne pas aimer le style, mais c'était quand même un vrai coach. Ils ont enchaîné avec Sampaoli, qui est un autre vrai coach à caractère, qui dégage truc. Et Tudor, encore un vrai coach.
Mais c'est pas ça, là, la question. Voilà. La question pour moi, c'est quand même que quand tu as un gros club français, tu vois, la différence finalement, tiens, on parlait de Toulouse ou de clubs comme ça qui ont peu de chances d'aller gagner un titre, et notamment en Ligue 1. Bah là, tu peux aller sur qualité de jeu, peut-être même un système nouveau comme la data. Tu peux effectivement peut-être changer de coach en te disant on va reconstruire une équipe parce que de toute façon nous l'objectif c'est d'être de nous maintenir et d'offrir un beau spectacle et éventuellement de prendre une coupe, un truc comme ça. C'est pas pareil quand t'es l'OM, Lyon, Monaco ou enfin, le PSG. Là, tu dois te dire qu'est-ce qu'on construit, comment on le fait et sur au moins du moyen terme. Je veux bien qu'il n'y ait plus de long terme en football. Et là, en faisant ça, tu acceptes que tu es ce genre d'équipe où tu rebats les cartes tous les ans. C'est en ce sens. J'ai eu des débats un peu en fiévré depuis hier soir avec les supporters de l'OM sur Twitter. C'est pas du tout que je m'en prends à Longoria. Moi, j'adore ce que fait Longoria et son discours. Mais comme il nous a vendu, comme l'a dit Daniel déjà, un projet, c'est une forme, un style de jeu. Déjà, entre Sampaoli et Tudor, c'est pas le même style de jeu. Alors, ça marche en termes de résultats sur le palmarès. Podium, très bien. Mais moi, je pense qu'il faudrait plus de continuité pour que cet OM-là, grosse ville et gros club français, concurrence le Paris Saint-Germain pour le titre, s'installe durablement en Coupe d'Europe et puisse jouer vraiment et sortir des poules en Ligue des Champions. Je pense qu'il faut de la continuité. Donc moi, très simplement, et même si j'ai pu émettre des bémols et qui contribuent d'ailleurs au départ de Tudor, des bémols que plus personne ne voulait entendre parce qu'il faut à tout prix juste dire, avoir un discours, je suis un peu sidéré par les débats que j'ai pu avoir, on peut pas avoir de réflexion complexe. Tu vois, j'aime beaucoup l'OM de cette année, j'aime beaucoup Longoria et son discours de début de saison quand il a recadré tout, je l'ai dit mille fois. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Tudor. Mais alors quand tu dis, au trois quarts de la saison, il me semble que Tudor quand même fait quelques mauvais choix qui ont quand même été validés par des résultats, notamment récemment moins bons. Les mecs hurlent en disant, mais toi t'as jamais aimé Tudor, t'es un anti-OM. Les mecs, calmez-vous, réfléchissez, écoutez, putain, c'est insupportable. Donc, je dis juste que, au contraire, Tudor, avec un management peut-être un peu différent, avec l'aide de son président qui l'aiderait justement à avoir un peu mieux son vestiaire, avec une meilleure utilisation de son banc, peut-être aussi avec un recrutement plus adéquat et un peu plus de chance parce qu'il a eu des blessés qui ont été malvenus, je pense à Unai. Eh ben, moi j'aurais souhaité, je préférerais pour l'OM, pour la stabilité, pour le fameux projet, que Tudor reste. Je pense que ce serait vraiment, alors un coup d'arrêt, j'espère que non, mais c'est compliqué de reconstruire et de repartir. Je trouve remarquable justement ce qu'a fait Tudor, étant donné le projet de jeu qu'il y avait avec Sampaoli, l'urgence dans laquelle il est arrivé. Absolument. Et la pression à laquelle il a résisté au mois d'août.
Tu as bien insisté sur l'urgence quand il arrive.
J'ai vécu ça, on faisait les afters à ce moment-là. Mm-hmm. On ne donnait pas à chair de sa peau. Il pouvait se faire dégager
au bout
de deux matchs.
On oublie vite, on remet pas dans le contexte.
Moi je souhaite, tu vois, ça va à l'encontre de ce que les gens ont cru que j'ai pu dire sur Tudor. Je souhaite qu'il reste, je souhaite de la stabilité. Ça n'empêche que je pense quand même qu'il a fait quelques erreurs. Je pense que c'est un coach qui est ultra rigide, y compris dans le fait, par exemple, qu'il n'ait pas prononcé, j'ai entendu ça, je ne sais plus dans quelle émission sur RMC aujourd'hui, je trouvais ça tout à fait juste. Tu vois, il n'a pas dit une fois non plus, dans son côté très froid, C'est vrai qu'ici c'est exceptionnel et c'est vrai que j'ai envie de
ouais, c'est vrai,
attention, il a eu une
en avril. Si, il a dit ça.
Ah, il a pas dit comme ça. Il a dit que il était que c'était très la première fois qu'il se sentait aussi en phase avec un club.
Mais est-ce qu'il a parlé de l'avenir?
En fait, il parlait de Longoria en creux, quoi, qu'il se sentait bien, qu'il
était sûr. Non, mais il a parlé de l'avenir. Est-ce qu'il a dit t'as envie, tu parles du PSG. T'as envie que les joueurs disent comme Messi, c'était évidemment pas le cas. Écoutez, c'est pas le club de ma vie, mais c'est un club exceptionnel dans lequel je compte m'inscrire pendant trois les temps dernières années. T'as envie d'un discours. Tu l'entends, ça, parfois. D'ailleurs, des discours qu'on a entendus avec Fofana quand il est resté à Lens, etc. C'est un bon sujet qu'on a traité avec les traîtres, avec ceux qui veulent rester dans la revue de l'after. Eh ben, là, Tudor, il a été très bien dans plein de domaines, très franc, mais, à aucun moment il a dit, par exemple, bah écoutez, je l'ai jamais dit ou rarement dit dans ma carrière, peut-être à Duke Spit, mais ici je serais capable de rester 5 ans, c'est exceptionnel. Comme Gerrits a eu des discours incroyables sur l'OM, en fait, comme les autres ont eu des discours.
Quelque part, si tu me permets de, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est on n'est pas obligé d'être rigide pour être bon, pour imposer une discipline et de la rigueur dans un club. Et tout simplement, si la boutique du coin, il pouvait trouver un sourire et le mettre avec. Sur son visage avec un petit peu d'affect, un peu de passion, parce que ce club a besoin de ça et naturellement c'est dans son ADN. T'as cité Gerrits, je pense que c'est un peu l'exemple.
Bielsa, même dans la rue, au supermarché, tu vois.
Ou même sans Paoli qui avait un caractère comme ça qui collait à l'OM. Tudor, je pense qu'il devrait se détendre un petit peu et mettre un sourire à l'OM. Sans pour autant se renier sur l'exigence qu'il a chaque jour. Tudor, c'est un Juventino. La Juve, c'est pas un club qui rigole. Traditionnellement, c'est pas un club qui rigole. C'est un club sérieux et rigoureux. C'est la ville du Nord en Italie. Ça rigole moins qu'à Milan, même. C'est une ville un peu froide. Évidemment que là-bas, il y serait très bien, que ça doit être le rêve de sa vie d'ailleurs. Mais Turin, c'est pas Marseille. Ça, c'est clair et net, culturellement. Alors, peut-être qu'il a le droit de s'adapter un tout petit peu quand même à la personnalité, à la culture de la ville, pour se faire complètement aimer, au-delà des résultats et de ce qu'il a proposé cette année, où quand même, on va dire, à 80% du temps, les supporters se sont quand même retrouvés dans cet OM cette année, au-delà des déceptions, parce qu'il y en a eu aussi quand même. Voilà, donc s'il pouvait juste... Après, il ne faut pas que ce soit fake, son adaptation.
Bien sûr. Mais,
parce que
mais là,
sinon, ça se verra. Mais juste réfléchir un petit peu, lui-même, savoir s'il a vraiment envie de rester, s'il a envie d'échanger dans l'affect avec ce club, parce que ça compte là-bas. Eh bien, écoute, oui, si un jour il va à la Juve, là-bas, il n'y aura pas besoin d'affect. Il fera son taf, il viendra le matin, il sera rigoureux, il fera son taf, il repartira le soir et personne n'en demandera plus.
Et sur,
dernier mot,
ouais, un dernier mot sur l'idée de projet. Moi, ce que j'ai aimé quand Tudor est arrivé, et ce que je trouvais remarquable et difficile à faire, il l'a fait notamment avec la gestion de Payet, je parle de la gestion de début de saison, en montrant au vestiaire, en gros, qui était le patron, et en montrant aussi ce qu'il fallait faire à l'entraînement, sur le terrain, en termes de travail. Cette culture du travail, par exemple, c'est génial. Alors, j'ose espérer qu'ils vont avoir la même idée avec le coach suivant si Tudor partait. Mais ça, par exemple, ça faisait partie d'un truc un peu, on va dire, nouveau. D'une obligation, d'une culture différente, d'un truc qu'on n'a pas toujours vu tout le temps en France. Donc, c'est en ce sens que je regrette le manque de continuité. Parce que ça, bah, tout en mettant un peu d'eau dans son vin ou en adaptant l'effectif à ça, à tout ça, avec les joueurs qui l'ont peut-être un peu lâché, enfin, avec qui c'est peut-être un peu fâché. Eh ben, si tu gardes ça, tu gardes forcément des points d'avance pour la saison suivante. Donc, je pense vraiment que si l'info et les infos de Flo Germain là, se confirment, c'est-à-dire un départ de Tudor, je pense vraiment que ce serait un coup dur et je pense une...
comment alors, dire, direct studio est assez partagé. Hein, on va d'ailleurs accueillir Romain dans quelques instants et ensuite d'ici midi, on parlera de la course au maintien dans l'after. On se retrouve tout de suite et puis tu as parlé de la revue de l'after. Florent, je précise que demain, on fera notre gros dossier sur les traîtres dans le foot. On va s'amuser. Demain, on a une liste hein, longue comme le bras et vous, dans votre club, forcément, vous en avez un ou deux, des traîtres. Le gars qui est parti chez l'ennemi, qui vous a abandonné en race campagne. On jouera tous à ça demain soir dans l'after. Et puis, concernant la revue, vous allez sur afterfoot.media. Il y a toujours l'offre Fête des Pères qui est disponible. Abonnement à moins 40%. Profitez-en. Et puis, demain, magnifique l'édito de Thibault Leplat, comme toutes les semaines. Il est chaud, là, le père Leplat. Il nous a fait un édito sur Bernard Tapie. Bienvenue dans le monde fascinant de la post-vérité, nous dit Thibaut, tout ça suite aux célébrations des 30 ans de la finale la semaine dernière entre l'OM et Milan. Ce sera en ligne demain matin sur afterfoot.media. Allez, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h33, ils sont là, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Et pour conclure le dossier Tudor, on va accueillir Romain. Juste avant, quand même, constatons. Alors, Tudor est pour l'instant toujours entraîneur de l'OM, mais enfin, vous ne trouvez pas quand même que la durée de vie des coachs est de plus en plus courte au fur et à mesure des saisons?
Oui.
Regardez Galtier, un an à Lille.
Données du football, un an à Nice, adaptation.
Un an à Paris, ça valse dans tous les sens.
Il y a un truc plus fort. Non seulement la durée de vie des coachs s'est réduite, mais elle se réduisait dans le cas d'échecs. Maintenant,
même en cas de réussite
ou de victoire ou de titre, les coachs arrêtent soit d'eux-mêmes, Spalletti à Naples, ouais, année sabbatique. Il y a une pression, une fatigue telle que même positivement,
pour Tudor, ça pourrait être l'un des motifs de sa mise en retrait volontaire de sa part, c'est l'usure. La pression de cette année. Non, parce que tu m'y as fait penser en parlant de Spalletti.
Oui, alors l'usure, il y a l'usure et il y a effectivement le fait de ne pas pouvoir faire mieux. Il y a des coachs qu'on l'a. Mais même, je reprends même en France, Julien Stéphan, tu sais, qui a dit qu'il avait regretté son départ. Mais il est parti très vite.
Mais Genesio, cette année, à un moment, il a eu le ras-le-bol. Pour ça, quand il disait que faut pas croire qu'on racontait de conneries, hein, à un moment, cette année, il a réellement dit ouais, je pense que je peux en avoir marre, que je peux partir à la fin de l'année. Il y a eu dans la saison, à un moment, il a eu un ras-le-bol. Il y a de plus en plus de trucs à gérer. Le métier d'entraîneur est de plus en plus dur, mentalement.
Même Genesio, d'ailleurs, c'est un bon exemple, parce que même ses résultats cette année, quel qu'il soit 4, 5, 6, tu peux pas dire Genesio dehors, il est 15e, ils ont fait un truc.
Ah, non, bien sûr que non.
De lui-même ou de l'extérieur, t'as une pression d'elle. Effectivement, après un titre, donc Galtier, tu pars. Spalletti, bon, il a le titre, il part. Tudor, 3e avec l'OM, peut-être, départ. C'est pas
Tuchel,
le
on sait même pas, en Allemagne, ils ont viré tout le monde après un titre. Pourtant, après un titre obtenu quand même, ouais, au terme d'un scénario complètement fou qui met tout le monde en joie, ben, ça peut empêcher 2 heures après, allez hop, on envoie valser tout le staff. Hein.
Et allez, on va finir sur Tudor avec Romain, supporter marseillais. Salut Romain.
Salut Romain. Oui, bonsoir à vous trois.
Salut Romain.
Bon, alors toi, tu dis quoi, toi? Ce serait un drame qu'il parte ou pas tant que ça?
Non. Bah après, je suis pas un grand fan de cet entraîneur. Et puis même déjà un petit aparté, mais on était très, enfin les médias étaient quand même très méchant, on va dire, dans ce sens-là, avec Sampaoli et Bielsa, parce qu'il parlait pas un mot français. Lui, il a jamais parlé un mot français, mais ça a jamais gêné personne, par contre.
Oui, c'est un peu du détail, ça. Moi, j'ai pas l'impression que les médias aient été méchants avec Bielsa et Sampaoli, globalement.
Ah si, mais tu rigoles ou quoi? Ça va pas ou quoi?
Ils ont démonté.
Bielsa et Sampaoli, ils se sont fait découper en pièces.
Ah bon?
Bah bien sûr, ah oui, on déteste ce genre d'entraîneur en France. De toute façon, globalement, on déteste ces entraîneurs étrangers. Ça c'est clair et net. Ça c'est dans l'after. Mais de toute façon, généralement, l'entraîneur étranger, il prend cher auprès de nos consultants, qui d'office ont toujours. D'ailleurs, si tu regardes chez la plupart de nos consultants, toujours beaucoup plus sévères sur les entraîneurs étrangers. Ça c'est une constance. Je n'en démordrai jamais. C'est un fait. Mais Sampaoli Bielsa, il a raison, Thomas. Ouais, attends, ils se sont fait démonter.
Moi, je sais pas, ouais. Blanc, il prend bien dans la tronche.
Blanc, tu rigoles, il y a toujours des circonstances atténuantes sur Blanc. Tu rigoles.
Même Galtier, il y en a toujours.
Oui, Galtier, toujours. Mais... Blanc, on te ressort tout le temps. On te ressort tout le temps les mêmes balivernes sur A. Quand il était au PSG, ça jouait bien le PSG. Mais n'importe quoi. Bon.
Peut-être que je consomme pas toutes les émissions. Alors, comparons RMC.
T'inquiète pas, je consomme. Oui. Sur notre antenne. Jérôme Tudor, il le découpe en pièces.
Oui, mais il découpe aussi Blanc et Galtier, par exemple.
Galtier, il a fallu du temps. Il a vraiment fallu qu'il arrive au bout du bout, quand même. Hein.
Bon, bref. Alors, revenons à Tudor, Romain.
Oui, non, moi, Tudor, je le découpe un peu en règle générale aussi, mais je suis pas fan de ses systèmes de jeu et de ces compositions d'équipe où tu commences le match où t'as quand même 8 à 9 joueurs à vocation défensive à la base. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils partent, parce que c'est un petit peu comme Sampaoli l'année dernière. On est tous devant les matchs, on a tous la solution pour trouver nous derrière la télé, et le mec ne change jamais. Le mec est incapable de se remettre en question, de changer quelque chose dans son équipe.
Est-ce que tu trouves qu'il y a eu assez de joueurs de l'OM dans l'équipe type UNFP?
J'ai pas regardé, honnêtement, ça, je m'en... Voilà.
Non, parce qu'il y avait Rongier au milieu de terrain.
Oui, mais il n'y avait pas Veretout, non?
Il n'y avait pas Veretout, il y avait Rongier.
Il y avait Mbemba.
Il y avait Mbemba en défense, absolument.
Il a pas...
Cette équipe, elle est folle, hein. Il y a Hakimi et Nuno Mendes. Nuno Mendes qui a joué 18 matchs et qui se retrouve là. Rongier mérité, même si j'ai du mal à comprendre, parce que le meilleur milieu de terrain du monde évolue quand même en France. Et il est pas dans l'équipe type. C'est quand même un peu fou, ça, que Rongier soit devant. Sûrement, j'ai du mal à comprendre. Enfin, bon, bref. Mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu folles.
Il y avait la Cazette au moins dedans, non?
Il y avait la Cazette devant, je me dis rien.
Ouais, j'imagine, oui, la Cazette Mbappé, non?
Parce que la Cazette Mbappé, logiquement, parce qu'il fait quand même une meilleure saison que notre Alexis Sanchez.
Je sais pas, elle est où l'équipe type? Quelqu'un là sous les yeux?
Non, du coup là, faut qu'on la trouve rapidos. Mais moi, c'est toujours pareil, c'est que cette équipe, comme elle doit être faite en fonction des votes des joueurs, on doit prendre globalement les meilleurs sur chaque poste et sans même sans se poser de questions en fait.
Oui, il n'y a pas de collectif.
Oui, voilà, on se pose absolument pas. C'est à chaque fois, c'est pareil, on se pose jamais la question de savoir si ça fonctionne.
C'est comme si tu te fais ton 11 de légende, est-ce qu'il y aura vraiment un collectif si tu réfléchis bien?
Logiquement, c'est comme ça qu'il faut le construire, le 11 de légende.
Ouais, mais si tu mets Cruyff, Maradona, Zidane au milieu de terrain, bon, pas sûr que ça va marcher, quoi. Mais
alors, Brice Samba dans les cages.
Hakimi, Nuno Mendes, Danzo.
Mbemba Mendes. Fofana, Rongier, Thuram. Openda, Messi, Mbappé.
Donc il n'y a pas la Cazette et ils mettent Messi. Ok, génial. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire?
Voilà.
Au bout d'un moment, ces équipes.
Moi qui ai grandi avec vous, au niveau football, j'avoue que ça me fait mal, mais bon. C'est même pour ça que des fois, je suis un peu déçu par Daniel sur Tudor, que je te trouve beaucoup trop indulgent avec lui, mais.
À quel niveau? À quel niveau je suis indulgent?
Dans ce qu'il propose, niveau jeu. Alors, je peux comprendre que l'intensité.
Dans ce qu'il propose, niveau jeu, écoute, je sais pas si en Ligue 1 cette année, on a deux équipes qu'on fait mieux. Si tu me cites. Cite-moi deux, trois équipes qui ont fait mieux.
Qui ont fait mieux que nous?
En termes de production de jeu sur tous les matchs, hein. C'est pas parce que ça s'est moins bien terminé qu'il faut oublier tout le reste. À part Lens, qui a proposé plus de jeux que l'OM?
De jeu, quand moi je parle de jeu, je parle pas d'intensité, hein. Je parle de football, hein. De jeu.
De football. Pour s'arrêter uniquement à la technique, encore faut-il que t'aies les joueurs techniques. Tu les as pas, donc ça va être compliqué.
Tu les fais pas jouer quand ils sont là non plus, donc.
C'est qui les joueurs techniques qu'il y avait à l'OM cette année qui ont pas joué?
T'as Unai avant qu'il se blesse, il a jamais joué.
Déjà, il était hors de forme quand il est arrivé, et ensuite il a été blessé. Donc c'est compliqué quand même. T'as pas eu l'opportunité de te dire que dès le mois de mars tu pouvais le faire jouer. Il s'est blessé tout de suite, donc c'est pas là, c'est un mauvais procès. Après, qui d'autre n'a pas joué?
T'as Gueye qui est un peu plus technique que deux ou trois qui ont quand même joué.
Honnêtement, je crois pas. Enfin bon, ok, après.
À Marseille, cette année, ouais. Vrai, t'as plus personne.
En fait, ces joueurs-là manquaient, c'est tout, c'est ça qu'il faut dire.
Mais tu les as. T'as Rongier qui a quand même pas les pieds carrés.
Mais Rongier, c'est pas un 10, c'est pas lui qui va poser le jeu.
Là, pour le coup, il a joué tout le temps.
C'est pas lui qui va poser le jeu.
Un autre système de jeu avec trois milieux de terrain auquel tu demandes autre chose.
Ah, là-dessus, tu dors quand même. Romain, faut reconnaître un truc. C'est que lui-même reconnaît des limites à son système. Hein. Il l'a dit plusieurs fois. Il dit, moi, je sais que c'est assez sclérosé. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Tu vois, mais bon, il semble s'accommoder, en fait, des contraintes que ça suppose, quoi.
Ouais. Oui, mais tes dédoublements sur les côtés avec tes latéraux sont plus faits par tes défenseurs centraux que par des ailiers sur les côtés. Déjà, pour moi, ça, c'est un problème. Tu peux pas demander à un défenseur central d'apporter comme ça, hein, régulièrement, spontanément, pourquoi pas.
Je l'ai vu pas mal de fois quand l'OM tournait bien, c'était bien, hein. Je l'ai vu pas mal de fois quand Mbemba était au top de sa forme, qu'il était parfois en position d'ailier, ça a été un apport assez important. Kolasinac aussi, je vois pas en quoi ça peut poser problème. Dans les matchs où l'OM était en jambes, en forme, on avait une sorte un peu de mouvement assez important où des joueurs dézonnaient beaucoup. Ça a été, enfin je trouve qu'on oublie quand même que sur les 38 matchs, il y en a eu plus où ça s'est bien passé, où on a vu des choses intéressantes que des choses pas intéressantes, hein.
Entre la Ligue des Champions et surtout Annecy, moi c'est ça qui passe pas, c'est Annecy.
Ah, dans ces cas-là, autant immédiatement on arrive à Annecy où on jouait beaucoup de remplaçants et dire ok, la saison de l'OM se résume à OM Annecy, puis on parle de plus rien. Voilà, on n'a qu'à dire que c'est Annecy. Alexis Sanchez a raté un penalty ce soir-là qui aurait pu donner une autre tournure au match. Voilà, bon, toute la saison de l'OM doit être jugée à l'aune de ce match-là.
Je reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tudor, on a dit tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il a dû changer, système de jeu, pression des débuts de la saison, courage entre guillemets de se passer de Payet, et il a démontré qu'il pouvait le faire. Après, quand il a demandé des recrues, qu'il a eu Malinovski, Unai et compagnie, il est vrai que alors, il était à l'entraînement, on l'a toujours dit, c'était lui qui décide, hein, pour Mbemba pareil quand il l'a moins fait jouer, mais il avait une tendance à compter toujours sur les mêmes hommes, y compris Nuno Tavares, qu'il a fini par écarter, qui n'était pas le meilleur à l'OM, loin de là. Et donc, effectivement, je reviens à Romain, je ne dis pas en termes de jeu, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, moi, j'ai plutôt été séduit par ce qu'il a proposé l'OM cette année, mais dans sa gestion de l'effectif, je l'ai répété hier, y compris par rapport à Lens, dans sa gestion du banc, c'est-à-dire dans l'idée d'essayer d'intégrer tout le monde, je pense qu'effectivement, Tudor a touché certaines limites et qu'elles expliquent les quelques points lâchés de ci, de là, y compris dans cette fin de saison où on dit que dans le vestiaire, il y a des joueurs qui, alors, minorité sans doute, ne le supportent pas. Et que ça explique peut-être aussi que lui va
être.
Moi,
j'ai vu beaucoup de remplaçants jouer être très décevants quand ils rentrent.
Ouais, mais tu sais, quand tu les fais, quand tu les fais pas jouer et que tu les fais rentrer 15 minutes et que ça se passe pas, si tu veux, à un moment donné, c'est pas. Alors,
il faut bien la gagner ta place. Hein. C'est vrai que moi aussi, parfois, les changements, les compos, ça pouvait. Mais. Vraiment.
Non, mais ça fait partie, je pense. Non,
moi, j'ai vu un Vitinha arriver à court de forme. Le gars, il coûte 30 millions. Il peut pas être titulaire tout de suite. Il a été à peine titulaire sur la toute fin de saison. Sanchez devait pas jouer neuf. Il s'est démerdé. Il a quand même été le meilleur du club cette année. Under part pas pour être titulaire, devient titulaire. Bon, c'est pas un joueur top niveau. Il a donné le max. Moi, j'ai quand même l'impression que la plupart des joueurs ont donné leur maximum. Payet a jamais mérité d'être titulaire. Là, d'ailleurs, dans le match contre Annecy, il est titulaire. Qu'est-ce qu'il fait? Rien.
Non, mais le cas Unai est intéressant aussi. Même le cas Payet à la fin, la gestion de cette dernière semaine, tout ça.
Non, la gestion de Payet, c'est de sa faute. C'est la faute, elle est à Payet. C'est lui qui va mettre une claque dans un match. C'est lui qui se met dehors tout seul.
Je parle pas de ça.
Unai s'est blessé, je comprends pas de quoi vous parlez en fait.
Non, Payet, l'histoire de Lille où il n'est pas emmené parce que dans la semaine, il n'a pas eu le comportement espéré par Tudor.
Tavares.
Ce que je veux te dire, c'est que globalement,
mais il n'a pas eu le comportement qu'il fallait à Lens.
Ouais. Non, mais c'est privé aussi. Unai, c'était vrai. Avant qu'il se blesse, il ne le faisait pas jouer. Il a eu une volonté des certitudes avec ses joueurs titulaires. On va dire, avec
son mais c'est système, la bonne période de l'OM. L'OM cartonnait à ce moment-là.
Ouais, mais n'empêche que quand on dit
l'OM,
ça,
l'OM était bon à ce moment-là.
J'ai dit ça un soir.
C'est même l'OM à un moment. On s'est demandé s'ils n'allaient pas jouer le titre début février.
Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas à la fin.
Mais début février, Unai il joue pas, mais après il se blesse à ce moment-là.
Daniel, moi c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi. Je suis assez d'accord avec Romain. À quel point. Je ne sais pas si tu es pied amoureux avec le PSG, pourquoi, à quel point tu es effectivement aussi laudateur à 400% sur le coach.
Mais pas du tout. Ce qui m'énerve, c'est
moi, je t'explique juste les limites d'un système.
Mais moi, je t'ai même dit il y a deux secondes que s'il s'en va, j'en fais pas un drame. Je t'ai même dit il y a 10 secondes qu'un mec comme Fonseca, s'il venait à l'OM, un type, ce genre d'entraîneur, je préférerais. Ne me mets pas dans le camp des défenseurs de Tudor, je me mets dans le camp de ceux qui ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Ceux qui le taillent après une telle saison, ça n'a pas de sens. Objectivement, par rapport à ce qui s'est passé dans notre Ligue 1, au niveau de notre Ligue 1, à la façon dont il a commencé l'année, au comportement de certains joueurs, aux caractéristiques des joueurs qu'il avait, je ne comprends pas.
D'accord.
Mais je lui reconnais les mêmes limites que tu as évoquées tout à l'heure. Et je te répète, encore une fois, même si les gens veulent pas l'entendre, s'il s'en va, je n'en fais pas un drame. Non. J'ai parlé peut-être de sa non-adaptation au climat marseillais. Putain, je vais pas parler chinois.
Punaise,
la vie, c'est pas binaire, bordel. C'est pas t'es pour ou t'es contre.
Non, Daniel,
t'es assez intelligent pour pas être binaire.
Il faut t'écouter aussi dans ce cas-là.
Non, je peux pas t'écouter alors que tu viens de me dire, il y a deux secondes, je sais pas parce que t'es supporter du Parisien, tu vas me chercher un truc alambiqué. T'es un Parisien déçu, donc t'es dans le camp des défenseurs de Tudor alors que je viens de te dire
non,
le contraire.
Non, mais je pense.
Fais pas de faux procès.
Il n'y a pas d'histoire.
On fait un procès stalinien.
Et blague à part, il faut que t'écoutes tout le monde, Florent, comme les auditeurs. Tu les écoutes même s'ils sont pas d'accord avec toi, c'est normal.
Mais là, il s'agit pas c'est de parler d'accord. De... Il dit un truc qui n'est pas vrai me concernant.
Non, mais moi, c'est mon analyse psychologique, elle est peut-être pas bonne.
Non.
Je pense effectivement, ça c'est un avis que j'ai personnellement, donc tu me permettras de te le donner. Effectivement, je pense qu'il y a une part que tu le veuilles ou non, mais c'est assez en dehors de ce débat. Hein.
Jamais...
Non, mais peut-être que non.
Mais
c'est mon analyse.
Mais non, ans,
non pas du tout. C'est
mais
pas
non,
du
mais
tout.
Mais tu m'insultes mais en disant ça, Flo. Si, tu
mais
m'insultes.
Mais non.
Non, je te promets, je le prends très mal.
Mais peut-être, mais c'est.
Bah, putain, j'ai, oh, j'ai 53 ans, venez pas me casser les couilles. Vraiment, je te prends mal.
Déjà,
non,
je te prends mal. Non, je te prends mal. Putain, les couilles.
Non, moi, j'en ai rien à foutre, je te prends mal. Voilà. T'as compris ou pas?
Redescends.
Non, je redescends pas. Non, je redescends pas. On me fait pas un procès comme si je suis en 70 ans. Mais ça me saoule.
Procès.
Mais non, mais ça me saoule. J'ai pas attendu d'avoir cet âge-là pour être traité de petit supporter de merde. Voilà. Ça suffit, voilà.
Non, je crois pas que l'on ait dit ça.
Non, ça suffit. Si, indirectement, c'est ça.
Non.
Ça me fatigue. Je suis pas sur Twitter, là. Je suis avec des adultes et des gens intelligents.
Oui, mais sur Twitter, on laisse parler aussi. Donc, faut que tu laisses parler.
Bah, on devrait pas.
On se répond.
Non, c'est fatigant, ça.
Bon, je réponds sur Twitter. Je ne bloque personne.
Bon, allez, conclue, Flo, et après, on
juste dire que. Ce que les gens peut-être comprennent pas, Daniel, parce que là c'est l'analyse de ce que tu dis, c'est que à quel point tu as absolument aucune indulgence, à juste titre, avec Rome Galtier, on va prendre l'exemple du PSG, et tu as de l'indulgence parfois pour Tudor, y compris sur ces limites que tu as évoquées.
Mais j'en ai plein d'indulgence. Je t'ai expliqué pourquoi.
Non,
les dix dernières saisons de l'OM, le contexte,
oui, c'est ça, ce que
les joueurs qu'il a. Évidemment que je suis indulgent. Et dans le même temps, je te dis, honnêtement, s'il s'en va, vu ce qu'il propose, je pense qu'on peut même trouver mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? J'essaye de mettre un peu de mesure, de pas être dans le camp de ceux qui disent, il dégage, il est mauvais ou il est pas mauvais. Il y a un contexte général et on vient me dire, en fait, tu défends Tudor parce que t'es déçu du PSG, donc tu veux dire, tu viens de l'OM. Mais ça veut rien dire, ça.
Non, mais ça, c'est une analyse.
Comment veux-tu que je sois indulgent avec Galtier? Il y a un motif d'indulgence avec Galtier.
Bon,
toi-même, tu l'es pas. Donc.
Dans un instant, on parle du maintien.
Mais là, je suis pas d'accord avec toi, vraiment.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h50, Louis Florent Gautreau, Daniel Riolo, Jingle Gautreau a parlé du maintien, parce que Florent va en parler ce soir, la lutte à distance entre Nantes et Auxerre.
Oui. Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul, c'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade Malherbe de Caen. Un but partout à 3 minutes de la mi-temps. Super pronostic de Xavier Gravelaine.
Et donc, pour un but de Mazur.
Mec, quand t'es dans un stade où il y a 80 000 personnes, ça donne des ailes.
Pas Bruno Mazur.
Non, c'était pas Bruno Mazur, que j'ai connu à France Télévisions d'ailleurs.
Bon alors, toi tu mises sur Nantes.
Ouais, je vais
contre toute attente.
Ouais, c'est une leçon de maintien que je vais essayer de donner ce soir.
Très bien, nous t'écoutons.
Pourquoi Nantes peut y croire? On rappelle le contexte, 2 points de retard, 35 points pour Auxerre, 33 pour Nantes. Différence de but favorable à Nantes, c'est un des arguments.
Nantes-Angers, Auxerre-Lens, dernière journée.
Voilà, Nantes-Angers, Auxerre-Lens, exactement. Alors, plusieurs raisons. Un, le calendrier, tu l'as dit, Nantes-Angers, Auxerre-Lens. Ah oui, on va dire Angers, c'est pas si mal à la fin. Ok, Nantes reçoit Angers et Auxerre reçoit Lens. Auxerre reçoit donc la meilleure équipe de France en termes de jeu, puisque globalement, l'une des deux avec l'OM, pour faire plaisir à Daniel. Non, je déconne. Et donc, je note en aparté d'ailleurs l'intelligence de Pierre Aristoui, qui dès la fin du match à Lille, a mis une pression certaine, je ne sais pas si vous avez vu ça, au Lensois. En gros, pour dire de ne pas lâcher le match, mais il l'a fait assez intelligemment. Il a dit, écoutez, Lens est une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe de notre championnat. Je vois pas comment Lens peut perdre à Auxerre. Bon, il a fait son job.
On va même l'écouter. Allez, il est vrai que c'était plutôt bien pensé.
Ah oui, c'était plutôt malin.
Les regrets, on aura le temps de les avoir. Pour l'instant, c'est la déception sur ce match. On est encore en vie, effectivement. Maintenant, il reste un match. On ne maîtrise pas tout. Vous le savez aussi bien que moi. Je ne doute pas un instant que nous ferons ce qu'il faut pour battre Angers. Et je doute encore moins que cette très belle équipe de Lens qui nous a enthousiasmé depuis le début de l'année fera honneur à son rang.
Voilà, moi je trouve que c'est très intelligent, c'est très juste. Donc le calendrier pour moi est favorable à Nantes, qui reçoit Angers, qui peut gagner et qui peut espérer à minima un nul d'Auxerre contre Lens. J'ai vu aussi une autre équipe que contre Montpellier le match d'avant. Il y avait 5 changements, il y avait une cohérence sur les duels, sur la solidité, sur les deuxièmes ballons, ils ont été efficaces. Chirivella, qui a fait l'effort de revenir, change beaucoup de choses dans cette équipe. Donc c'est peut-être très tardif, mais comme il ne leur faut plus qu'une victoire, c'est un autre argument. Il y a Ganago qui a failli d'ailleurs mettre le deuxième but à la 44e. Et puis voilà, je vois la possibilité d'une idylle avec la chance, puisque en 2005, ils se sont sauvés à la dernière journée. Ils se sont sauvés au barrage en 2021 contre Toulouse. Et voilà, je pense que ce retournement de situation de la dernière journée peut exister, d'autant que Lens, on dit la fête et tout. tu sais, ces semaines d'euphorie post victoire, parce qu'ils ont pas de titre pour les Lensois, avec cet effectif important quand même, avec des joueurs qui ont peut-être un peu moins joué mais qui sont très bons, je pense à Fulgini notamment et autres, je pense que je ne vois pas Lens perdre à Auxerre, et donc je pense que Nantes a effectivement une chance de certaine de se maintenir.
Bon, et la rivalité Nantes-Angers, tout ça, là, ça, tu te dis, on s'en fout.
C'est pas ça qui va empêcher Nantes de battre Angers.
Je pense que ce Nantes que j'ai vu à Lille, cette organisation-là, les changements qu'il avait fait, parce que c'est vrai que le match contre Montpellier m'aurait donné l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en gros, contre Montpellier, t'avais le Nantes qu'on connaissait, qui s'attendait pas à jouer le maintien, donc c'est un souci. Et versus une équipe d'Auxerre qui est remarquable et qui, elle, joue bien et joue et dans l'optique du maintien. Ce que j'ai vu à Lille, c'est plus une équipe qui veut jouer le maintien, qui va vraiment faire quelque chose, qui, franchement, vu les circonstances du match, c'est quand même un match galère pour Nantes, même si tout était justifié sur un plan arbitral. Donc voilà, je tente ce pari un peu fou vu l'écart de points ce soir. Je suis désolé pour Auxerre et pour mon ami Guimou sur Twitter, mais c'est le pari du soir.
Daniel, est-ce que tu es d'accord?
Le pari est paradoxalement pas complètement fou. Parce que Nantes a été beaucoup trop négligent dans l'attitude ces dernières semaines, avec pourtant des joueurs qui ne devraient pas être là où ils en sont, pour ne pas avoir un peu de dignité et se dire « c'est le dernier match, nous on va faire ce qu'il faut en battant Angers, et advienne que pourra de l'autre côté ». Le problème, c'est que de l'autre côté, pour Auxerre c'est un problème, pour Nantes un peu moins, Auxerre est dans l'obligation de battre Lens. C'est pas un match nul. C'est pas un. Il faut gagner. Un match nul, je pense que j'aurais tenu un autre discours, mais battre Lens. Écoute, aujourd'hui, je crois que c'est Nantes qui est dans une meilleure posture avant cette dernière journée. Je vois pas pourquoi Lens laisserait filer. C'est pas quelque chose qu'on constate un peu partout en Europe quand il y a une dernière journée avec une équipe de haut de tableau. Qui termine comme Lens a terminé. Il n'y a pas de raison que la dynamique de Lens, qui ne perd pas un match depuis des semaines, vienne perdre le dernier match. Qu'il laisse filer comme ça, ça m'étonne. Je crois même que j'y croirais presque plus si c'était le PSG en face, qui là, pour le coup, a des joueurs qui n'ont rien à cirer de rien, que Lens, où il n'y a pas de raison d'aller perdre, en fait. Je ne vois pas pourquoi leur dynamique se casserait. Donc, ils peuvent au minimum... les Lensois prendre le nul et empêcher Auxerre de se maintenir, parce que Nantes, de l'autre côté, je peux pas imaginer autre chose quand tu joues pour ta survie d'un club, des salariés du club, des joueurs qui vont rester parce qu'ils vont pas tous partir. Honnêtement, je peux pas imaginer une seule minute. S'ils battent pas Angers, les gars, allez tous vous jeter
dans l'herbe.
Non, voilà. Exactement.
Je pense que les mecs de Dortmund, il y a une semaine, si on disait ça contre Mayence, on disait pareil.
Mais tu as absolument raison.
Donc faut être méfiant.
C'est absolument impardonnable. Non mais je ne dis pas que c'est pas possible. Mais je dis exactement comme je pense que c'est impardonnable pour Dortmund. Ça serait également impardonnable pour Nantes de pas faire le taf, parce que là on demande pas plus que ça, quoi.
Et je note d'ailleurs à l'étranger ou ailleurs, comme a dit Daniel, que ça joue en Ligue 2. Wow. Tu sais, les matchs où avec les équipes pas concernées. J'ai vu Bastia contre Le Havre. J'ai vu Brest à Marseille qui était déjà sauvé. Donc les équipes jouent jusqu'au bout. Alors il y a parfois des considérations financières.
Justement, tu sais, Mayence contre Dortmund.
Mayence contre Dortmund. Les équipes jouent. Tant mieux d'ailleurs.
C'est un peu soit la fin, soit justement la multiplication des maletas.
Demain à 20h.
On intéresse les équipes à jouer.
Demain, Génération After à 20h, 22h. L'After, on parlera demain soir de la course à l'Europe. On n'a pas eu le temps de le faire ce soir. Et puis, demain soir, spécial traître dans l'After. On vous donne tous rendez-vous au 32-16. Et puis là, on vous laisse avec Jean-Christophe Drouet et le magnifique Practice. Si vous êtes golfeur, vous allez vous régaler. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.